BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron rappelle régulièrement, il l'a encore fait ce matin, la France est entrée en mode économie de guerre, il l'a rappelé lors d'un déplacement à Bergerac. Il a aussi remis un petit coup de pression aux industriels du secteur de la défense. On va vous raconter tout ça, bien sûr, dans un instant. Sinon, toujours pas de baisse de taux ce soir dans la zone euro. Sauf que Christine Lagarde nous a quand même laissé entendre que la prochaine, ça serait la bonne pour le mois de juin. On vous racontera ça aussi, bien sûr, ce soir sur BFM Business. On parlera tous avec nos experts qui arrivent à 18h30. On parlera aussi un petit peu avec eux des derniers chiffres des défaillances d'entreprises qui sont tombées ce matin, qui ne sont pas très bons. Et puis de Gabriel Attal qui est arrivé au Canada, qui est venu rassurer Justin Trudeau sur le sort du fameux CETA, bien évidemment. Voilà le programme non exhaustif, 18h15, dans un quart d'heure. C'est le patron du métier, Philippe Dornano, qui sera l'invité d'Eddie Chevrillon dans la grande interview. Et nous sommes partis jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. La France, il le répète, est entrée en mode économie de guerre. Ce matin, il allait poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Il en a profité pour remettre un coup de pression aux industriels de la défense. Il faut produire plus et surtout plus vite. Écoutez.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les 2 années qui viennent pour faire 2 choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation, dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà Emmanuel Macron ce matin du côté de Bergerac. Bonsoir Thomas Asportas. Il le dit, c'est important pour nous, c'est aussi important pour l'Ukraine qui a besoin d'être vraiment approvisionnée en obus, Thomas.
Oui, c'est avant tout pour l'Ukraine puisque le pays tire en moyenne 2 fois moins d'obus par jour que la Russie. Et d'après l'OTAN, la Russie produit presque 3 fois plus d'obus que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc il y a un déséquilibre majeur. Et c'est pour commencer à y remédier que la France veut relancer sa production de poudre à Bergerac, chez Eurenco. C'est le fabricant historique depuis 1917, ça avait été complètement abandonné en 2007 parce qu'il n'y avait plus de commandes. C'était même devenu une friche. Et évidemment, tout a changé en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Et Eurenco doit maintenant complètement relancer la machine pour, vous l'avez dit, passer en économie de guerre, produire le plus possible, le plus vite possible. Ça se traduit très concrètement aujourd'hui par un investissement sur place de 60 millions d'euros. La nouvelle usine va ouvrir très vite, dès le début de l'année prochaine. 150 personnes vont être embauchées dans les 12 prochains mois et la capacité de fabrication sur place de poudre va être multipliée par 10. C'est l'illustration de ce que veut Emmanuel Macron, à la fois en termes d'économie de guerre, mais aussi de souveraineté avec la relocalisation d'activités militaires, d'activités de défense et enfin de réindustrialisation avec la création d'une nouvelle usine et de nouveaux emplois.
Voilà pour le déplacement d'Emmanuel Macron à Bergerac ce matin. Merci Thomas. Puis il se trouve qu'Emmanuel Macron était accompagné entre autres de Bruno Le Maire aujourd'hui. À un moment, vous savez, où on lit, on entend que les relations se sont clairement rafraîchies entre les deux hommes. Emmanuel Macron, en tout cas, a repris un message distillé, en particulier depuis quelques semaines par son ministre. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, hein. Il le dit clairement, pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse. Je cite le président de la République. Dans l'actualité ce soir, je vous le disais, toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine fois pourra être la bonne, c'est-à-dire au mois de juin. Conférence de presse que vous avez peut-être pu suivre cet après-midi en direct sur BFM Business, 18h03. Je vous le disais, pendant ce temps, Gabriel Attal est au Canada. Il vient de donner une conférence de presse avec Justin Trudeau. Évidemment, on a parlé du CETA. Vous savez que le Sénat français a rejeté le texte il y a 3 semaines, mais Gabriel Attal a tenu à rassurer tout le monde. C'est un accord gagnant-gagnant. Autrement dit, on y arrivera. Écoutez.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos 2 pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Voilà, Gabriel Attal tout à l'heure du côté d'Ottawa. On parlera bien sûr de ce débat tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Et puis en France, ça a donc été une des annonces choc de la journée. ExxonMobil qui réduit la voilure. Il va fermer plusieurs unités de pétrochimie en Normandie. Et surtout, il va vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries présentes en métropole. Exxon explique très calmement que ses activités ne sont plus compétitives aujourd'hui. Léo Dumas.
Les unités de pétrochimie normande ne sont pas économiquement viables, assure ExxonMobil, qui dit accumuler des centaines de millions d'euros de pertes depuis des années. Le groupe américain les fermera avant fin 2024 et supprimera ainsi 677 emplois. Jean-Philippe Petit est le porte-parole d'ExxonMobil en France.
Nous avons des unités qui ne sont pas compétitives en termes de taille et en termes de consommation énergétique par rapport à ce que fait aujourd'hui la concurrence mondiale. La Chine, aujourd'hui, approvisionne le marché européen à des coûts nettement moindres que ce que nous pouvons produire sur notre site ici en local.
Pour la raffinerie de Fos-sur-Mer qui va être cédée au consortium suisse Rhône Énergie, Esso évoque aussi le maintien de sa compétitivité en France, car dans les raffineries, les coûts de l'énergie sont un vrai enjeu. L'UFIP, qui représente le secteur, déplore la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le Covid. Et dans le même temps, la demande de produits pétroliers baisse. L'une des solutions est donc la conversion des sites en bioraffinerie pour produire des carburants à base de biomasse. Et ce sera bientôt la norme, estime l'UFIP, qui ne croit plus à des raffineries 100% pétrole en 2050.
Voilà, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et puis on voulait dire un mot de cette nomination phare chez Gucci, navire amiral de Kering aujourd'hui. On vient de nommer un directeur général adjoint, il s'appelle Stefano Cantino. C'est lui qui va devoir essayer de relancer les ventes de Gucci qui sont attendues en baisse sur le premier trimestre. Hélène Cornet.
Reprise en main chez Gucci, un nouveau président, un nouveau directeur artistique et aujourd'hui un nouveau DG, Stefano Cantino, un vétéran du luxe qui a passé 20 ans chez Prada, 5 chez Louis Vuitton. Un remaniement en profondeur pour relancer la marque, le chantier est prioritaire et même impératif. Gucci, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de Kering, les deux tiers de son résultat opérationnel. Sauf qu'au premier trimestre, la marque ne fait plus office de locomotive, le groupe a prévenu, les ventes sont attendues en baisse de 20% en raison de la faiblesse du marché asiatique. Contrairement à d'autres maisons qui misent sur l'intemporel, Gucci a une clientèle plus jeune et un modèle économique qui s'apparente plus à celui de la mode, avec des collections qui se renouvellent plus rapidement selon les spécialistes du secteur. Tout l'enjeu est donc de la faire monter en gamme avec des produits iconiques qui plairont à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Le souci, c'est que cette stratégie est surtout payante sur le long terme.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business, 18h07, on va sur les marchés. Étienne Braque, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business.
Bonsoir
Étienne. Petite baisse ce soir à la Bourse de Paris. Hein.
Une nouvelle fois, la troisième, trois baisses d'affilée. Ce n'est pas arrivé depuis le mois de janvier à la Bourse de Paris. Un CAC 40 qui a à nouveau mis en danger les 8000 points, qui les a même perdus en séance avant de clôturer juste au-dessus. 8023 points, c'est une baisse de 0,3%. Alors la séance devait être marquée par la BCE, mais faute de grandes surprises, eh bien, c'est les membres de la Fed qui ont piqué la vedette à Christine Lagarde, puisque vous avez notamment le président de la Fed de New York et son homologue de la Banque de Richmond, bah, qui ont enfoncé le clou par rapport au nœud d'inflation d'hier en disant il est beaucoup trop tôt pour baisser les taux et surtout, on n'est pas très à l'aise pour baisser les taux à court terme. Donc autant dire qu'il n'y aura plus de baisse de taux au mois de juin. Donc forcément, le marché n'apprécie guère. Vous avez un Dow Jones qui recule, des indices en Europe qui sont dans le rouge également, avec l'obligataire qui continue de grimper aujourd'hui. À noter le pétrole qui redescend légèrement sous les 90 dollars. Alors la valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est Publicis qui est sur des records historiques. C'est de loin la plus forte hausse du marché parisien. 103,65 €, un titre qui gagne plus de 40%. C'est surtout la première société à dévoiler son chiffre d'affaires du premier trimestre. Et il est largement au-dessus des attentes grâce notamment aux dernières acquisitions du groupe. Et puis hors CAC 40, a souligné Esso qui est également sur des plus hauts historiques avec notamment sa maison mère ExxonMobil qui se désengage en partie de la France. Ça propulse ce titre ce soir de quasiment 8%, plus 170% depuis le début de l'année pour ce titre Esso qui, comme beaucoup de pétrolières comme Total, sont sur des niveaux inédits. Le CAC 40 donc qui recule très légèrement ce soir, moins 0,27% à 8023 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Effectivement, on a un petit peu de mal. Moins 0,28% pour le Dow Jones, 38 352 points. Et puis l'indice Nasdaq qui grappille, lui, 0,5%, 16 252. Tout ça à la mi-séance, 18h09. Le PDG de Sisley, co-président du métier, Philippe Dornano, invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de cosmétiques de luxe, de CETA, puisque vous le savez, le Premier ministre Gabriel Attal est en ce moment même, du reste, avec Justine Trudeau, puisque mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano. Il est président de Sisley et coprésident du métier. Bonsoir Philippe Dornano.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets. On va parler donc de commerce extérieur, on va parler, tiens, de seniors. Vous n'êtes pas dans les négos, vous, le métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, mais enfin, maintenant, intéressant de savoir. Et puis, on va parler de Sisley, j'ai envie de dire un peu pour une fois, parce que vous avez, vous lancez en ce moment même une nouvelle marque, donc c'est toujours un événement pour un groupe comme Sisley, et puis une nouvelle marque notamment aux États-Unis. Et alors certains parlent d'intelligence artificielle, vous vous, vous lancez dans l'intelligence émotionnelle, on verra ça tout à l'heure. D'abord, pour la première fois, le commerce extérieur, la cosmétique est le deuxième poste et vous avez franchi la barre des 20 milliards, 23 milliards. Le CETA, ça vous concerne, là, alors que Gabriel Attal est en train d'en parler ?
Oui, ça nous concerne. On est,
vous êtes pour ou vous êtes contre ?
La cosmétique vend dans le monde entier et nous, on est plutôt pour, dans la mesure où le CETA, ça a été mis en place il y a 7 ans. C'est opérationnel,
oui, c'est ça qui est paradoxal.
Ça n'a pas été voté. Et ce qu'on constate, c'est que ça, les échanges de la cosmétique française au bénéfice de la France ont augmenté de 60%. Donc on voit que c'est un secteur qui bénéficie du CETA. Par ailleurs, on voit que même des secteurs comme l'agriculture bénéficient globalement du CETA, hein, puisque les échanges agricoles ont augmenté de 30%. Il y a par contre effectivement des écarts à l'intérieur de l'agriculture entre certains secteurs et d'autres, ce qui peut être éventuellement organisé et prévu pour que ces secteurs-là soient compensés. Mais globalement, le CETA bénéficie à notre pays.
Et donc notamment au luxe, pour vous avez dit, pardon, c'est plus combien
Plus 60% en 7 ans, l'augmentation des échanges...
C'est sur la cosmétique ou sur le luxe,
Non, sur la cosmétique. Ouais. Non, uniquement sur la cosmétique.
Oui, d'accord. C'est important. Vous êtes pour les accords internationaux. Est-ce que ça vous favorise ou de toute manière...
On est pour les accords internationaux, comme d'ailleurs l'ensemble, comme, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entreprises, qu'à partir du moment où ils sont équilibrés.
Oui.
Il faut par contre, bien sûr, négocier, être défendu et avoir des situations de réciprocité.
Non, mais ça, évidemment.
Prends un exemple, oui. Par exemple. Lorsqu'on exporte au Brésil, on paye 200% de droits de douane.
Ah oui, donc là, effectivement, il y a un petit souci, oui.
Ou l'Inde, plus de 100% de droits de douane. Donc il y a des pays qui sont effectivement ouverts, et certes, ils importent chez vous, mais vous pouvez exporter chez eux. D'autres pays qui, effectivement, ont fait d'autres choix, et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est qu'en tout cas, il y ait une réciprocité.
C'est pour ça qu'à la limite, le Mercosur, vous y seriez, vous, à titre personnel, et puis pour la profession de la cosmétique, plutôt favorable.
Parce que favorable si les négociations prévoient qu'un échange équitable ait lieu,
oui,
en tout cas pour notre secteur.
De droits de douane.
Après, bien sûr, la cosmétique n'est pas le seul secteur, mais il faut que ce soit un ensemble.
Est-ce qu'on peut dire quand même que lorsqu'on voit les chiffres incroyables, hein, de la cosmétique et du luxe français, est-ce qu'on peut dire que pour vous, vous ne connaissez pas la crise ? Vous, là, un peu, on voit bien que c'est difficile, notamment en France, on en dira un mot. Vous, c'est incroyable.
Je crois qu'on a construit en France collectivement, grâce au succès d'un certain nombre d'entre nous et un travail dans le temps, à la fois des marques fortes et une filière.
Ouais.
Et ça se protège, mais je ne dirais pas qu'on ne connaît pas la crise. On est très très concurrencé. Il y a énormément d'enjeux dans la cosmétique. Il y a énormément d'autres pays qui produisent de plus en plus de la cosmétique et qui est concurrente de la cosmétique française. La France reste leader, mais dans le monde, dans l'entreprise, rien n'est jamais acquis.
Ouais. Tiens, puisqu'on est dans les sujets d'actualité, on en a beaucoup parlé là ces derniers jours, sur la négociation sur les seniors. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'accord, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord, le patronat n'a pas resté campé sur ses positions, les syndicats aussi, mais d'une autre manière, mais en réalité, il n'y a plus d'accord sur l'assurance chômage, et puis c'est peut-être le gouvernement qui va rafler la mise. Bon, vous n'êtes pas partenaire social dans le sens légal du terme, mais en même temps, vous représentez toutes les entreprises de taille intermédiaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous avez jugé cette séquence ?
Bon, d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que les ETI, qui sont à 70% des entreprises familiales, sont des entreprises
qui jouent le jeu sur les seniors.
Voilà, enfin, qui jouent le jeu, ou en tout cas, qui sont... Je dirais, c'est même pas une question de jouer le jeu, c'est nous considérons les seniors comme un atout pour nous. Et nous sommes heureux de les avoir dans nos entreprises. Ils ont une expérience, ils ont une connaissance, parfois même une connaissance précieuse. Et donc, on a, nous, besoin, on a d'ailleurs dans certains domaines des difficultés de recrutement, on a, nous, besoin de toutes nos équipes et on valorise le travail de long terme dans nos entreprises. C'est un peu le propre de nos entreprises de long terme d'avoir ce raisonnement-là. La deuxième réflexion que je me fais, c'est qu'on est en train de parler aussi de 5,2% de déficit d'une dette qui est de plus en plus importante. On sait d'autre part que le Conseil d'orientation des retraites est en train de complètement réévaluer ses estimations pour des estimations beaucoup plus réalistes et pense que malgré la réforme des retraites, on sera de nouveau en déficit en 2030. Et la question collectivement, simplement, c'est si on vide les économies qui semblent déjà pas suffisantes.
Ah oui, c'est d'accord. Là, vous êtes sur les cagnottes. Enfin, voilà. Cagnottes. Maintiens les guillemets à chaque fois.
Non, c'est pas une question de cagnottes, c'est une question d'avoir des régimes équilibrés. Mmh. Si le régime n'est pas durablement équilibré, on aura donc collectivement une difficulté, on aura donc un déficit, on aura donc. Donc, il est important d'y faire face. Et donc, si on n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à trouver un accord, le gouvernement reprendra la main. Je comprends un peu le fait qu'on ne puisse pas. On a déjà augmenté les retraites de 5,2% au 1er janvier, c'est-à-dire très nettement supérieur à l'inflation. Oui. Donc il y a quand même collectivement une prise de conscience qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on produit.
Mais le fait que le gouvernement, c'est celui qui reprend complètement la main, c'est les conséquences de cet échec. Enfin, a priori, sauf si évidemment les partenaires sociaux se remettent à travailler autour d'un accord. Mais est-ce que pour vous, c'est la fin du paritarisme? Ça veut dire quelque chose? Ou alors, voilà, c'est une séquence?
Non,
c'est une mauvaise séquence.
Pour moi, c'est une séquence, mais pour moi surtout, il faut savoir qu'on ne peut pas collectivement avoir 30 ou 40 ou 50 milliards ou 100 milliards de déficit chaque année. C'est juste impossible.
Okay, ça, c'est plus général.
Mais c'est plus général, mais c'est en réalité le fin mot de l'histoire. Et qu'il faut donc avoir des régimes qui soient raisonnablement équilibrés. Et si ça n'est pas le cas, effectivement, il faut qu'on l'adresse. Ça ne sera pas possible d'avoir 5,2% de PIB de déficit chaque année.
Philippe Dornano, on va parler de Sisley, parce que c'est là vous avez lancé une nouvelle marque. Donc Sisley, grosso modo, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est 4080 personnes. Vous êtes présent dans 112 pays, enfin de mémoire, vous me dites si je me trompe. Vous gagnez combien? Le bénéfice, c'est quoi?
On ne communique pas sur nos bénéfices parce qu'on est une entreprise familiale.
Mais
c'est une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise qui a beaucoup investi.
Qui est rentable ou très rentable?
C'est une entreprise qui est rentable selon les critères de la cosmétique, qui s'est beaucoup développée, qui a beaucoup investi. C'est une entreprise qui va investir là dans les deux prochaines années 110 millions, pardon. Oui. Là, je suis passé sur les milliards.
Ouais.
110 millions d'euros sur ses sites industriels en France. C'est une entreprise qui produit en France et qui, à partir de la France, exporte vers l'international. Effectivement, on construit une deuxième usine de production à Vendôme. On double aussi notre centre de recherche à Saint-Ouen-l'Aumône et notre centre administratif. C'est quasiment 110 millions d'investissements. C'est près de 5000 salariés, dont 1300 salariés en France. Donc, c'est une entreprise qui a doublé son chiffre d'affaires dans les 7-8 dernières années.
Ouais. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut créer des usines, on peut développer des ETI en France.
Alors, on peut les développer, mais on ne peut pas faire l'économie du sujet de la compétitivité. Parce que si on fait l'économie
de ce
sujet...
Ça, c'est votre grand cheval de bataille, mais
oui, parce que si on fait l'économie de ce sujet, ça va commencer par notre filière qui va se paupériser, qui va disparaître. Ça va ensuite être des pans d'entreprises qui vont commencer à produire à l'étranger. Et un jour, on se fasse réveiller et cette industrie cosmétique dont on est fier en France et qui est notre deuxième poste, notre deuxième excellent d'exportation, elle ne sera plus là. Les marques produiront ailleurs. Il ne faut pas oublier que la cosmétique, c'est très, très concurrentiel.
Et juste un petit point sur la zéro artificialisation nette des sols. On a vu que les projets industriels, a priori, les grands projets industriels ne seraient pas touchés, impactés par ça. Vous, ça peut vous impacter?
Alors, le problème, c'est le mot les grands. C'est-à-dire qu'en réalité, pour les ETI, ça va impacter les projets industriels. L'industrie, c'est moins de 3% de l'artificialisation. Et donc, il y a une question de bon sens qui se pose. Est-ce que cette radicalité, ce zéro artificialisation des sols, est-ce que c'est pas de nature, à partir du moment moment où ça va empêcher les développements économiques, de créer une réaction de rejet vis-à-vis du sujet de l'artificialisation. Ouais. Cette radicalité dans le domaine écologique, il porte presque c'est presque l'ennemi de l'écologie. Il faut que des projets d'activité puissent se développer. D'ailleurs, les collectivités locales sont les premières à le dire. Ouais. Et il faut avoir raisonnablement la possibilité de créer des emplois, de créer de l'activité dans notre pays, qui, je le rappelle, est un des pays les moins artificialisés en Europe.
Oui, c'est toujours ce côté excessif. Alors, lancement d'une nouvelle marque, pourquoi c'est un moment important pour vous? Alors, je disais en introduction, en faisant un petit clin d'œil, certains font de l'intelligence artificielle, vous faites de l'intelligence émotionnelle, puisque votre nouvelle marque, elle s'appelle Neurae. C'est un lancement qui représente combien pour Sisley?
Alors, qui représente 11 ans d'innovation, de travail sur cette marque, parce que au début il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous lancez une nouvelle marque.
Non, mais d'investissement, j'entendais, parce que 11 ans.
Et en investissement, je peux pas vous donner un chiffre précis, mais c'est 11 ans de travail.
Ouais.
C'est une injection. Et nous sommes une marque qui est familiale, personnelle. Ma famille travaille dans les cosmétiques depuis à peu près 90 ans maintenant. On a créé plusieurs marques en France.
Si c'est comme vous l'avez dit.
Orlan et ensuite Sisley. On a créé aussi une marque dans le groupe Sisley qui est Rituel, qui est une marque capillaire qui a maintenant 5 ans et qui s'est vraiment formidablement développée, parce que on est dans les 112 pays avec beaucoup de succès. On a reçu plus de 300 prix dans la presse internationale et la marque est en très forte croissance. On vit de l'innovation, on vit de la création. On a une liberté de créer dans cette catégorie qu'est la cosmétique et le capillaire. Et on cherche aussi, quand on crée une nouvelle marque, des champs de recherche qui sont des champs puissants. Et c'est le cas des neurosciences.
Alors là, c'est quelque chose... Oui, on peut se demander qu'est-ce que viennent faire les neurosciences, ou alors c'est que du marketing par rapport à cette nouvelle marque que vous lancez. C'est l'idée, en fait, que nos émotions impacte notre visage et notamment la manière dont est reçue une crème.
C'est d'abord l'étude sur le lien entre le cerveau, le système nerveux et l'ensemble des organes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième point de progrès, c'est des outils de mesure. En fait, pour optimiser, il faut mesurer.
Et en fait, on parle d'une crème, c'est ça qui est étonnant.
Et depuis 20 ans, l'IRM, les différents outils de mesure qui vous permettent de mapper dans votre cerveau l'activité dans votre cerveau de vos émotions, mais aussi la compréhension du lien peau-cerveau qui se fait en partie par une connexion électrique, mais en partie par une connexion chimique, c'est-à-dire des neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs qui sont produits à la fois dans le cerveau et dans la peau vous permettent de mieux comprendre comment la peau fonctionne et de regarder si ces neuromédiateurs ont un impact sur votre peau. Ça, c'est très intéressant, et on voit qu'un certain nombre de neuromédiateurs, non seulement ils agissent sur vos émotions, mais ils ont un impact sur l'état de santé de votre peau.
Donc ça veut dire que là, par exemple, si je vais chez vous, vous allez mettre des sortes d'électrodes sur la tête, et puis vous allez pouvoir voir comment ma peau réagit.
Ça veut dire surtout que on le sait tous, si je suis effrayé, je vais avoir de la chair de poule. Si je suis stressé, je vais peut-être avoir une irritation, ou je vais peut-être être... Ça, on l'a tous vécu, mais on ne pouvait pas l'expliquer. On le savait de manière empirique, mais on n'avait pas d'outils qui permettaient de l'expliquer, de le mesurer. Et ces outils qui permettent d'adresser des produits qui sont des produits efficaces pour la peau et qui luttent contre les irritations de la peau, contre les rides, qui permettent une meilleure fermeté de la peau, en agissant sur ces neuromédiateurs qui sont produits par la peau comme par le cerveau et qui ont une action sur votre peau.
C'est étonnant, vous avez fait appel à des médecins, à des quoi ?
On a fait appel à des médecins, on suit beaucoup les recherches médicales sur la manière dont la peau fonctionne, on a travaillé aussi sur des nouveaux types de tests qui permettent de mesurer les actifs qui vont agir sur un neuromédiateur au niveau cutané. C'est un travail qui est vraiment important. Et d'autre part, pour les parfums, on peut aussi maintenant, grâce à l'IRM, mesurer les actions que les parfums ont sur votre cerveau, et c'est absolument passionnant.
Ah oui, ça doit être... Et là, vous lancez ça en ligne, évidemment, aux États-Unis, en France ?
On lance ça dans 5 pays, dans un certain nombre de points de vente sélectionnés. On va être au Sephora Champs-Élysées très, très prochainement. On le vend également en ligne. On va ouvrir une centaine de points de vente en France en septembre. On le lance aux États-Unis dans des grandes chaînes américaines. On le lance dans des parfumeries plus traditionnelles en Italie. On le lance plutôt en digital en Angleterre. Donc, des choix différents de distribution et quelques pays sélectionnés, mais On est assez confiant sur le succès de ce produit. Et comme vous l'avez dit, on est présent avec le groupe Cissé dans plus de 112 pays. Donc, au fur et à mesure, on développera la marque dans tous ces pays.
Est-ce que vous êtes conscient quand même, vous le savez, j'imagine, c'est qu'en fait, quand on interroge notamment les banquiers d'affaires, il y en a plein qui vous disent, toutes les grandes marques, elles sont à l'affût, elles regardent Cissé en se disant, quand est-ce qu'on peut les racheter? Vous avez beaucoup de propositions?
On est une marque, et je pense que c'est de plus en plus compris, on est une marque de créateurs et d'innovateurs. On est une marque familiale, passionnée par les produits. On a été à de nombreuses reprises l'une des marques qui a modifié l'ensemble du paysage cosmétique grâce à des innovations. On a été la première marque à se spécialiser dans les actifs naturels, c'est-à-dire l'utilisation scientifique des extraits des plantes. Et vous savez, vous pouvez extraire des centaines de milliers d'actifs d'une seule plante. Donc il y a un travail scientifique très important. On a été la première marque à créer un soin solaire. Quand vous allez au soleil, votre peau est beaucoup plus exposée. La première marque a créé un soin global anti-âge en 1999 avec Sisleya. On a à chaque fois été très, très innovateur, et c'est ça notre passion.
Votre patte.
Je pense que vous sentez qu'on vit notre entreprise d'une manière forte.
Donc c'est pas pour tout de suite. Les banquiers d'affaires, faudra attendre en tous les cas. On peut dire un mot de étincelle avec mauvais jeu de mots, si j'ose dire ETI majuscule étincelle, parce que c'est un programme qu'a voulu le président de la République pour promouvoir les ETI. Et là, vous avez annoncé et présenté lundi dernier, donc il y a juste quelques jours, 1128. Entreprises que vous avez repérées qui pourraient devenir des ETI, comment est-ce que vous avez fait ?
Vous me disiez à juste raison qu'on se bat sur la compétitivité du site France, mais aussi, on peut aussi prendre le problème sous un autre angle. Nous, notre but, c'est de recréer un tissu d'entreprises moyennes grandes en France. Un Mittelstand, j'osais pas le dire, à l'égal de l'Allemagne ou d'autres pays, d'ailleurs, de l'Europe, l'Italie du Nord. Et on peut prendre le sujet de la compétitivité, mais on peut aussi avoir un autre angle d'attaque pour arriver à ce résultat. Et c'était l'idée d'Olivia Grégoire, c'était d'identifier des PME de croissance qui peuvent arriver à la taille de ETI et essayer de les aider, de voir ce qu'on peut faire pour les aider à se développer. Ce qu'on a fait, nous, pour le gouvernement, c'est une recherche, et on a donc identifié plus de 1100 PME de croissance qui pourraient arriver à la taille ETI et qui permettraient à la France, petit à petit, de rattraper l'Allemagne quant au nombre d'ETI. Je vous rappelle les chiffres, 6300 ETI en France, ouais. 17000 en Allemagne.
Ouais. Et en Italie, c'est 13000 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on est très, très, très en retard. Quel secteur, en fait ? Parce que là aussi, ça rejoint un problème. C'est que lorsque vous regardez les chiffres du commerce extérieur, c'est que vous avez plus de 96% qui exportent, des entreprises, des PME, mais qui représentent même pas 2% ou 3% du commerce extérieur français.
Donc, il faut connaître l'exportation. Le problème de l'exportation, c'est qu'il faut quand même des moyens pour exporter. Ouais. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour la compétitivité. Et il faut aussi une certaine taille. Il faut avoir à la fois de l'argent et puis il faut avoir des équipes. Il faut avoir le temps pour aller à l'exportation, pour pouvoir construire les projets. Et donc, il faut identifier des entreprises d'abord qui ont des produits porteurs et ensuite essayer de faire en sorte qu'elles puissent progressivement et de manière intelligente aller à l'exportation. Pousser des petites PME à trop vite à l'exportation, c'est même dangereux pour elles. C'est donc plutôt à la taille ETI qu'on arrive à vraiment pleinement exprimer la force de l'exportation. Ouais. Et je vous rappelle que les ETI, c'est 35% du chiffre de l'exportation française. Donc, notre sujet d'exportation, c'est d'avoir en France le même nombre d'ETI qu'en Allemagne. C'est ça ce qui va permettre à l'exportation de se développer.
Oui, il y a du boulot. Lorsqu'on voit les chiffres, c'est à peu près moins de 100 milliards. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je parlais du déficit du commerce extérieur, bien sûr. Merci Philippe Dornano, le patron de Sisley et coprésident du Métis.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, on est de retour, 18h35. Nos experts sont là. Première partie jusqu'à 19h. Emmanuel Lechypre est arrivé. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon qui reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir.
On va dire un mot quand même de ce que disait Philippe Dornano, le patron de Sisley, co-président du Métis. Alors, on racontait tout à l'heure, Gabriel Attal est à Ottawa. Là, il a tenu une conférence de presse avec Justin Trudeau pour dire rassurez-vous, le CETA est un bon accord, ça va se faire. Là, il a trouvé un ambassadeur de première classe. Là, pour
absolument, mais c'est donc. Il faut dire que la cosmétique, ça cartonne de par le monde. À la limite, ça n'a pas besoin tellement d'accord. Mais si, disait justement Philippe Dornano, d'abord, le CETA, il fonctionne depuis 7 ans. Donc, c'est ça, c'est un peu le truc un peu ubuesque de la situation. Il dit, mais pour nous, c'est très, très important parce que ça nous rapporte. Mais comme c'est plus 30%.
Il faut bien qu'il les gagne quand même.
Comme plus l'agriculture. Et il disait, par exemple, regardez, pourquoi c'est important ? C'est parce que, par exemple, les droits de douane sont contrôlés. Il disait, vous voyez, au Brésil, les droits de douane, c'est plus 200%. En Inde, c'est plus 100%. Donc, c'est sûr que si vous avez un accord où vous avez pu négocier les droits de douane, comme c'est le cas pour le CETA, à ce moment-là, c'est du gagnant-gagnant. Donc, lui, bel avocat ou bon avocat en tous les cas pour ces accords internationaux.
Ou bien qu'il y ait des gagnants quand même dans ces accords de libre-échange. Emmanuel, on est d'accord, bah, ça l'est
pas. Non, et en plus, avec le CETA, il y a plus de gagnants que de perdants.
Y compris dans l'agriculture.
Y compris dans l'agriculture, puisqu'effectivement, si vous regardez nos viticulteurs, si vous regardez nos fabricants de fromage, donc on a vraiment changé de philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde acceptait ces accords. C'était un peu des boîtes noires dans lequel on nous disait...
On savait pas très bien ce qu'il y avait dedans.
Oui, on savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. On savait que globalement, on était gagnant. Et puis les filières perdantes, finalement, ne disaient trop rien. Il y avait beaucoup de filières gagnantes aussi. Là, ce qui est fou, c'est que maintenant, on n'accepte plus cette philosophie qu'il y ait le moindre perdant. Et ça, effectivement, on le voit bien. Alors après, est-ce qu'il faut trouver les moyens, surtout là pour le coup, sur le CETA, on voit bien que le nombre de perdants est quand même extrêmement concentré. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, effectivement, peut-être après
de... C'est les vins et spiritueux qui en bénéficient beaucoup plus.
Oui, absolument.
C'est, mais par c'est exemple, les cosmétiques.
On voit bien que le seul sujet, en fait, c'est l'élevage.
C'est les conditions d'élevage.
C'est la viande. Et que donc, voilà, après, il y a peut-être quelque chose politiquement à faire pour limiter la casse. Mais c'est vrai que...
Et puis pour nous, trouver une alternative à la Chine sur certaines matières premières essentielles dans le
cadre
de la
transition. Oui, parce que c'est un des autres sujets aussi, effectivement, l'approvisionnement en matières premières stratégiques.
Bien, je voulais qu'on dise un mot aussi de ce qu'il nous a raconté sur la fin de l'interview, c'est les neurosciences au service des cosmétiques. C'est génial.
Il faut dire que c'est une histoire, les Dornano, c'est une histoire assez étonnante. Donc ils ont son père avec son frère, Michel Dornano, on connaît, ancien homme politique, et Hubert Dornano, son père, ils avaient créé Lancôme, Orlan, et puis donc Sisley, c'était un tout petit laboratoire de crème à partir de plantes. Et puis à partir de ça, ils ont complètement développé, se sont appuyés sur les technologies pour savoir comment les plantes pouvaient impacter sur notre peau et tout. Et là, ils lancent une nouvelle marque où en fait on aura, je disais un peu en rigolant, certains développent l'intelligence artificielle, eux c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de la réactivité en fait de votre peau.
Écoutez ça,
aux émotions, à différentes choses, et bien votre peau, elle fait des irritations, elle fait ceci, elle fait cela. Donc ça leur permet, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à la neuroscience, de savoir comment votre propre peau va réagir, y compris les parfums.
Et les parfums aussi.
Les parfums aussi. Il y a un parfum qui s'appelle émotion, l'autre qui s'appelle joie, l'autre qui s'appelle énergie. Et on se met ça, par exemple, tous se mettent ça avant de venir en studio, Emmanuel.
Ça vous embouche un coin, ça, Emmanuel. Neuroscience au service des cosmétiques. Ça, c'est vraiment...
Non, mais c'est vrai qu'on sait, on sait qu'il y a des tas de...
La technologie,
Non, mais il y a des tas de processus physiques qui se déclenchent quand vous ressentez des émotions, etc.
Bien sûr.
Et donc, certainement, si on arrive à inventer des produits qui s'adaptent finalement aux différents types d'émotions, c'est ça le progrès.
Voilà, les neurosciences donc au service des cosmétiques, c'est l'avenir. Bien, au milieu de tout ça, la Banque Centrale Européenne, de revenir à nos fondamentaux.
Demandons si Christine Lagarde utilise les neurosciences, pour savoir s'il faut baisser ou pas les taux d'intérêt.
Évidemment, ça, on le saura demain. Donc la Banque Centrale Européenne qui n'a pas baissé ses taux d'intérêt, mais enfin on a quand même senti dans les propos de Christine Lagarde que peut-être le mois de juin, ça serait la bonne. Bonsoir Thibault Prébet, vous êtes avec nous en visio, merci d'être avec nous quelques instants. Directeur général adjoint de la financière Arbe Vel. Est-ce que vous sentez vous aussi... que le mois de juin, ça sera la bonne pour une première baisse de taux, Thibault?
Oui, pas de doute. Les statistiques inflationnistes se réduisent comme peau de chagrin en Europe. Le discours était très clair. On a plus l'impression de ne pas être passé très loin de la baisse de taux en avril que d'un risque que celle de juin s'évapore.
Pourquoi? Parce que la prochaine est en juin, que c'est dans deux mois?
Oui, absolument.
Et vous pensez que certains auraient voulu une baisse de taux dès le mois d'avril, finalement, c'est ça?
Christine Lagarde a évoqué le fait que certains des membres de la Banque Centrale auraient voulu quelque chose d'ici avril, mais se sont rangés à la majorité. Les trucs pas consensuels comme ça, c'est des choses qui durent pas très longtemps. La Banque Centrale attend le prochain rapport sur l'emploi qui sera entre cette réunion et la prochaine pour voir la décrue de l'inflation salariale qu'on connaît tous et qui est déjà documentée par ailleurs. Ouais. On a maintenant une inflation dans les grands pays de la zone à 2, 3, 2, 4. Faut quand même bien comprendre que mettre des taux à 4 quand l'inflation est quasiment à 10, ça pose aucun problème, c'est compréhensible quand on est aussi proche de l'objectif de 2%, dont je vous rappelle qu'il est théoriquement désormais symétrique, donc on y est quasiment. Il est clair maintenant qu'il n'y a plus tellement de raison de laisser les taux à ces niveaux-là. Se déjuger par rapport au scénario juin qu'elle avait donné depuis longtemps aurait peut-être été un pas assez fort. Simple fait que ça a été envisagé, évoqué, montre quand même que le consensus sur juin ou avant, par rapport à un consensus juin ou après qu'on avait précédemment, est assez clair. Donc on y va tout droit. La question sera, une fois que ça a démarré, l'ampleur, la vitesse, et c'est là que il faudra bien écouter ce qui nous est dit par la Banque Centrale, puisqu'en réalité, le point de départ est très excitant pour les marchés. C'est un peu ce qui se passe après. Je vous rappelle, quand on a commencé les hausses de taux aux États-Unis, on parlait de 3 ou 4 hausses de taux. Vous voyez où on a fini.
Oui, oui, oui.
Donc,
le
point de départ, c'est sympa, mais le vrai truc qui compte, c'est le cheminement.
Emmanuel Le Chip a une question pour vous, Thibault.
Ben, oui, parce que Thibault, dans les anticipations de mouvement de taux, on a quand même une extrême volatilité qui tourne à la fébrilité. C'est-à-dire que maintenant, les baisses de taux aux États-Unis, on nous disait il y en aura au moins 3. Tout le monde considérait ça comme acquis. C'est de moins en moins sûr. Et puis moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quand même un trouble fait dans tout ça qui s'invite depuis le début de l'année. C'est qu'on a beaucoup de matières premières qui sont reparties à la hausse. Et on sait que la BCE, même si c'est de l'inflation importée, etc., elle risque d'être sensible à ça. Donc, est-ce que cette hausse, et encore une fois, de beaucoup de matières premières, ne risque pas de contrarier le mouvement de baisse?
Thibault.
Non, sincèrement, je crois pas du tout, parce que il faut regarder en fait de manière plus à mon avis apaiser ce sujet. Les matières premières, déjà on est une économie qui varie vers les services en sortant de l'industriel, donc le poids des matières premières n'arrête pas de baisser. Je rappelle aussi qu'on a eu des hausses que j'appellerais rétroviseurs des prix de l'énergie. Enfin, le coût de l'électricité en France spot, il est quand même à 0 euro le mégawattheure, pendant que le prix du gaz est revenu au niveau de avant crise, voire d'il y a 5 à 10 ans. Et c'est pour le coup une matière première qui est peut-être moins fun à commenter que le prix du cacao, mais qui est beaucoup plus impactante pour les ménages. Donc je crois que l'image globale quand même, c'est qu'il n'y a pas de pression inflationniste. La difficulté, elle est simple. On a des sociétés dans le domaine du service qui ont, si on prend l'exemple de Netflix, une capacité à monter les prix pour des raisons quasi monopolistiques, comme les Microsoft 365, etc. Et donc ces boîtes-là ont une inflation qui est stagnante et qui ne baisse pas. Il y a une grosse partie du pool aux États-Unis, c'est moins important en Europe. Ça ne justifie pas aujourd'hui de risquer de tuer des entreprises industrielles pour garder les taux à un niveau où ils sont même pas particulièrement efficaces contre les services. Donc je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu en Europe. Aux États-Unis, ça se débat plus.
Aux États-Unis, c'est autre chose. Edwige, est-ce qu'il est temps, au moins en Europe, effectivement, de baisser les taux?
Oui, c'est clair. J'allais faire la même réflexion que vient de faire Thibault à l'instant. C'est qu'aux États-Unis, on a vu les chiffres de l'inflation, c'est pas terrible. En revanche, en Europe, il est temps. J'ai envie de dire, il est grand temps. Mais quel niveau de baisse des taux? Qu'est-ce que vous pariez sur quoi? Parce qu'on voit que la situation économique, elle est en train de se dégrader, et que surtout, cette guerre qui n'en finit pas en Ukraine pèse énormément sur le moral des agences économiques. Et on voit que les chiffres ne sont pas bons. Donc, je ne sais pas, si vous aviez un pari, ça serait quoi?
Alors, Thibault, vous avez un scénario ou pas?
Ouais. Allez. Non, mais le problème, c'est que déjà, il faut se rappeler un truc, c'est qu'on a tous oublié que le potentiel économique de croissance de la zone euro, il est quand même pas très loin de zéro. C'est ce qu'on avait avant cette crise de Covid. Et on revient plus ou moins au potentiel, comme les États-Unis qui reviennent à leur potentiel qui est un peu plus haut. Et donc, malheureusement, je crois qu'il faut s'habituer à des économies assez ternes, qui sont notre norme. En revanche, je pense que les baisses de taux mettant du temps à se faire, elles vont être au fur et à mesure, et que garder un rythme de taux, on va dire, d'observation dans un premier temps, sauf dérapage inflationniste à la baisse, reste un peu dans les cartes. Donc je pense que la baisse va se faire, elle va se faire lentement. Si ça se fait trop vite, que les marchés montent trop, ça recrée des dépenses, de la consommation. Donc je pense qu'on va rester dans quelque chose, malgré tout, de relativement sage dans un premier temps. Mais encore une fois, les cycles de hausse et de baisse des taux, c'est sur plusieurs semestres, donc c'est pas très grave que ça démarre pas très vite. Il faut voir où ça nous emmène. Mais attention, il y a un risque sur l'industriel si on rentre dans des phases déflationnistes. Il y a des risques sur la construction de logements neufs, qui sont très sensibles au niveau des taux, sur les niveaux globaux de l'économie. Espérer qu'on revienne à 2% en Allemagne ou en France, je pense que c'est malheureusement, par rapport à la grande tendance de l'histoire, optimiste.
C'est une époque un peu révolue. Bon, rendez-vous en tout cas pour le déblocage, peut-être au mois de juin. Merci Thibault, merci d'avoir été avec nous quelques instants.
Merci
Thibault Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. On attendra Christine Lagarde au tournant, évidemment, en juin prochain. Et puis alors, on voulait dire un mot de ces chiffres qui sont tombés ce matin. Alors ça, c'est en France, premier trimestre 2024, vous avez vu ça. Un peu plus de 17 000 défaillances d'entreprises enregistrées d'après le cabinet Altares. Sur un premier trimestre, vous n'avez pas vu un chiffre aussi élevé depuis 2015.
Il faut voir la taille des entreprises, parce qu'on sait que c'est les TPE, très souvent, qui sont les plus impactés. On aura du reste, le président du tribunal de commerce de Paris sera mon invité dans la grande interview lundi, parce que lui, il a ses chiffres sur le premier trimestre. Je pense qu'évidemment, ils ne seront pas très très bons. Mais c'est les TPE qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert.
Il y a plus de PME maintenant qui commencent à aller au tapis, malheureusement, c'est ça le sujet. Thierry Millon, justement, directeur des études d'Altares, est avec nous en visio. Bonsoir, monsieur Millon, merci d'être avec nous. Alors, vous nous dites, sur un an, au premier trimestre, c'est plus 19%, mais vous nous dites, si on regarde dans le rétroviseur, les années précédentes, c'était des hausses de 30 à 40%. Donc, ça augmente toujours, mais la hausse ralentit d'une certaine façon, Thierry Millon.
Oui, bonsoir à tous. C'est naturellement le message. Nous sommes, après la Covid, à attendre que les niveaux de défaut soient très élevés, et ils le sont. Et nous avons un premier trimestre qui continue, comme le quatrième de 2023, à être élevé. En revanche, plus 20%, même si ça reste beaucoup, c'est deux fois moins que ceux que nous avions au cours des deux années précédentes. Oui. Donc, apprécions l'effort.
Emmanuel Le Chypre, comment est-ce que vous regardez ces chiffres, vous, Emmanuel?
Oui, moi j'avais une question quand même autour du rythme, enfin du nombre, parce que là, bon, on regarde, c'est vrai que les pourcentages de variation sont intéressants. En nombre, on a quand même l'impression qu'on n'est pas très au-delà de ce qui est le rythme. J'allais dire de croisière.
Bah, on est à 60 000 sur un 12 mois.
Oui,
c'est
là, un peu le rythme de croisière de la respiration de l'économie française chaque année. Est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer ou pas? Ou est-ce que c'est la nature des entreprises qui font défaut qui est plutôt inquiétante?
Il ne faut pas s'alarmer. 60 000, c'est un volant de défaut que nous avons rencontré avec la crise financière en 2008 et que nous avons conservé jusqu'à ce poste la crise des dettes souveraines. Donc en 2016, préalablement, nous étions très en dessous, et depuis, nous étions plutôt stabilisés autour de 53 000. Donc le référentiel est plutôt 53-55 que 60, très clairement. Derrière ces 60 000 défauts sur un an, pour le coup, nous avons bien évidemment beaucoup de TPE, c'est l'essentiel, c'est 92%, hein, comme notre économie d'ailleurs. Pour autant, en termes de tendance, parce que c'est là où les données sont les plus sévères, c'est sur les PME de 50-200. Donc, nous sommes sur des employeurs de territoire, dans toutes les régions. Et nous avons là, évidemment, une économie qui est fragilisée parce qu'il s'agit de sous-traitants, d'équipementiers, qui, s'ils sont en défaut, évidemment, ne pourront pas servir la filière, même si cette filière devait être une filière en forte activité.
Oui. Élie Chevrillon.
Oui, non, juste une question. Bonjour, monsieur. C'est, les secteurs, c'est quoi? C'est le BTP? Oui. C'est, qu'est-ce qui est plus impacté dans les chiffres que vous publiez?
Alors, d'une façon tout à fait attendue, les secteurs qui avaient le plus souffert sont ceux sur lesquels les tendances sont les plus favorables. Apprécions aussi le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, nous avons et des territoires et des activités qui sont repassées dans le vert, c'est-à-dire dont le nombre de défauts diminue, donc c'est quand même pas rien. Et donc là-dessus, nous avons pour l'essentiel les métiers de quotidienneté, les métiers de bouche, les commerçants évidemment. Ça reste encore un peu tendu. À l'opposé de cela, nous avons des métiers sur lesquels les tensions sont très fortes. Donc l'immobilier reste en tête avec des niveaux qui sont très élevés, et pas très loin des niveaux de l'immobilier, nous avons par exemple le commerce de meubles.
Oui.
Si vous ne déménagez pas, si vous n'achetez pas, si vous ne transformez pas, vous pénalisez cette activité-là. Nous avons bien évidemment la construction, mais de façon générale, j'ai plutôt tendance à trouver que la construction, finalement, offre une bonne résistance. Il faut séparer le commerce de gros, c'est-à-dire les maçons et la construction de maisons individuelles, du second œuvre, qui donne quand même des signaux de résistance tout à fait intéressants et encourageants.
Bon, vous nous dites donc, pour résumer, pour conclure, Thierry Millon, on sera à 64 000 grosso modo défaillances sur l'ensemble de l'année 2024. C'est ça le chiffre, qui n'est pas alarmant pour vous, a priori?
Non, 64 000, c'est plus 10%. Oui. C'est toujours trop, mais ça n'est que plus 10%.
Merci beaucoup Thierry Millon, merci d'avoir été avec nous ce soir quelques instants. Directeur des études du cabinet Altares, qui a donc publié ses chiffres ce matin. Je vous fais écouter un petit bout d'Emmanuel Macron qui était à Bergerac.
Ouais.
Sur un sujet qui lui est cher depuis deux ans, vous savez, c'est l'économie de guerre, parce qu'il a posé la première pierre d'une usine qui va fabriquer de la poudre pour obus. Et il en a profité pour remettre un petit coup de pression sur les industriels pour produire plus et plus vite. Écoutez le président de la République ce matin à Bergerac.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les deux années qui viennent pour faire deux choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation, dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà, c'était une friche il y a encore quelques années, ce site. Et ce qui se passe là, ce qui était là où est allé Emmanuel Macron ce matin, c'est assez révélateur de ce qui se passe, parce qu'on racontait ça ce matin sur BFM Business, la poudre dont on a besoin pour construire des obus, il faut ce qu'on appelle de la nitrocellulose. C'est une matière première qu'on ne trouve pas en Europe. Les réserves sont en Chine. Or, la Chine en vend beaucoup plus à la Russie qu'à l'Europe depuis 2 ans. Voilà. C'est l'illustration parfaite de ce à quoi on veut s'attaquer en termes de difficultés aujourd'hui. Relocaliser, Emmanuel, sur le sol français. Enfin, c'est...
Ouais, il y a 2 enjeux dans cette relance. Alors, plutôt que d'économie de guerre, on peut parler d'effort de guerre, parce que l'économie de guerre, c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est vrai qu'il y a 2 enjeux. Il y a quand même cet enjeu de souveraineté, qui est un enjeu majeur sur les produits de défense, et c'est les mêmes débats que ceux qu'on a sur finalement les technologies d'intelligence artificielle, etc., qui viendraient d'ailleurs. Et puis c'est vrai que ce sont des secteurs qui ont un effet d'entraînement plus important sur l'économie que d'autres secteurs. Donc oui, effectivement, c'est intéressant de voir que on va sans doute avoir plus d'activité. Il y a de la commande publique qui a beaucoup augmenté, et ça a un vrai effet d'entraînement.
Il y a de la commande publique, mais les industriels expliquent qu'ils ont du mal à fournir, à tenir le rythme, augmenter la cadence, produire plus et plus vite, justement. Oui, d'où les messages de Le Cornu depuis 15 jours, 3 semaines, qui tirent un peu les oreilles aux industriels.
Le message du ministre des Armées, Sébastien Le Cornu, c'était la menace des réquisitions. Oui. Effectivement, et là, les réquisitions, c'est quand même l'outil le plus dur de notre arsenal juridique, qui peut conduire à obliger des entreprises à donner la priorité à certaines productions.
Edwige.
Oui, mais moi, je posais la question à Patrice Cahen, donc le patron de Thales, donc dans la défense jusque-là. Et il disait, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'économie de guerre, parce que de toute façon, par exemple, on parlait du Grand Masters 200, vous savez, c'est le radar qui peut protéger notamment Kiev des attaques à 200 km à la ronde. Et il disait, on en produit, mais il y a un moment, on ne peut pas produire plus. Donc, déjà, on a l'impression...
Avec des stocks sur les bras qui vont être dont on ne sait pas...
Oui, mais c'est qu'à la limite, tout le monde en veut. Il faut bien aussi que ça soit l'Ukraine, la France, la question de souveraineté. Je suis d'accord, évidemment, avec Emmanuel, et qu'il y a une demande très, très forte, parce que la France est devenue le deuxième producteur d'armes dans le monde. Et qu'il y a des demandes et des besoins partout.
Sauf que l'enjeu, si on veut vraiment enclencher une reprise de la production d'armement, c'est de garantir à ces entreprises qui vont se lancer dans l'armement, de leur garantir des commandes pour des années et des années. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé pour les masques au moment du Covid, où ça a duré 1 an, et puis après...
Oui, sauf que tout le monde est en train de se réarmer, y compris la France. Oui, donc c'est là où il y a un sujet.
Je pense que le sujet, il est là. Et qu'on a quand même, pour le coup, une industrie de pointe. La France, c'est un des plus gros vendeurs d'armes.
2000 entreprises, deuxième exportateur d'armes
aujourd'hui. Donc c'est quand même un secteur sur lequel on a intérêt à capitaliser.
Mais il va falloir effectivement honorer les commandes, et c'est un petit peu le...
Non, mais il y a un enjeu pour la France elle-même, pour la souveraineté de la France. Je pense que c'est ça le gros sujet qui peut inquiéter, parce que la demande, elle est là, de par le monde. Partout, tout le monde veut acheter des armes, et notamment des armes françaises, parce qu'on est très bon. Mais puis il y a l'Ukraine qui a une demande gigantesque, mais il y a aussi la France qui a besoin de se protéger au cas où.
C'est muscler notre industrie de défense, c'est pas une économie de guerre.
Non,
c'est l'économie de guerre. Les États-Unis, pour vous donner l'ordre d'idée, c'était un tiers du PIB au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Voilà. Donc on en est très très loin.
Et aujourd'hui, c'est 3,5% de leur PIB, alors que la France est à 1,9%. Ouais, la question, c'est est-ce que demain, l'économie de guerre, en cas de menace immédiate, ça doit être 2, 3, 4, 5% du PIB? Évidemment, ça serait un autre sujet. Là, ça dépasserait le cadre des industriels. Il nous reste 2 minutes, nous accueillons avec l'honneur dû à son rang François Sorel. Bonsoir François.
Ça fait plaisir. Bonsoir à tous les trois.
Parce qu'il est avec nous, parce qu'invité exceptionnel tout à l'heure dans Tekkenco, qui s'appelle Jonathan Ross, c'est le patron de Grok. C'est la start-up américaine qui veut défier Nvidia sur son terrain de jeu. Rien de ça, c'est vendeur, franchement.
Ouais.
Franchement,
quoi. Start-up très intéressante. Grok avec donc son fondateur qui sera en interview exclusive pendant plus de 40 minutes dans Tech & Co. Une interview qu'on a enregistrée hier et qui s'annonce passionnante parce que ce gars-là, c'est un peu Sam Altman avant qu'il soit connu. Je suis persuadé que dans un an, ce type sera une star de l'intelligence artificielle. Il a un parcours brillant. Il a eu comme prof un certain Yann Lequin. Ouais. Qui est un peu notre star française de l'intelligence artificielle. C'est Yann Lequin qui l'a formé, en quelque sorte. Il a travaillé chez Google. Il a travaillé dans les puces des smartphones Google, les Pixel, il y a quelques années. Et puis, au bout d'un moment, il a décidé de monter sa boîte. Et il se concentre sur un truc très simple. c'est à la fois très simple et très compliqué. Comme toujours avec l'IA, ils fabriquent des puces qui permettent d'avoir une rapidité d'exécution des réponses que tu reçois quand tu écris sur ChatGPT, des réponses jamais vues. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ChatGPT, mais quand vous écrivez une requête, vous appuyez, vous attendez 2-3 secondes avant que le texte sorte.
Et comme nous n'avons plus aucune patience avec quoi que ce soit...
Lui a mis au point un truc, c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que tu appuies sur Enter pour après ta réponse, instantanément tu as la réponse. Pour l'écrit, c'est impressionnant, mais c'est bluffant pour le futur de l'IA. Le futur de l'IA, ça sera la voix. Ça sera la voix, ça sera la robotique. Et demain, on aura des interactions qui seront tellement spontanées et tellement rapides qu'on pourra encore se rapprocher de cette intelligence artificielle générale qu'on évoque de plus en plus souvent et qui serait au niveau d'une intelligence humaine. Ce gars-là est passionnant, on évoque plein de choses avec lui. Il a même des velléités à créer en fait un centre de données, de data center en France, parce qu'il estime que la France est le carrefour de l'Europe en termes de technologie. On a une électricité de bonne qualité, on a du très haut débit, on a d'excellents ingénieurs, et donc il aimerait bien s'installer en France.
Il faut le dire aux agences de notation, hein,
c'est pas ça. Pourquoi il veut supplanter Nvidia?
Parce que...
Donc la vitesse de ses puces,
En fait, Nvidia fait des puces qui sont très générales, qui sont très puissantes, mais qui ne sont pas optimisées pour justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les réponses, en fait, lorsqu'on écrit une requête
sur ChatGPT. Oui, mais j'ai bien compris, mais j'imagine que Nvidia, du coup, il veut aussi accélérer la vitesse de ses puces.
Oui, mais ils n'ont pas encore cette... comment dirais-je, le savoir-faire que lui a avec ses puces.
D'accord, il a ça.
Et en plus, elles consomment beaucoup moins que les puces traditionnelles d'intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant.
Mais le chiffre est bouche bée.
Combien de puces il produit
Alors là, j'en ai aucune idée.
Mais ce qui est surtout extrêmement bluffant et nouveau, c'est que c'est chaque semaine qu'on fait des progrès.
Chaque jour, que
cette technologie arrive. Finalement, c'était un peu le sens de l'histoire. On voit bien qu'on va aller de plus en plus vite avec des processeurs de plus en plus puissants, etc. Ce qui est fou, c'est que le monde de dans 15 jours n'est plus le monde d'aujourd'hui et que d'ici cet été, il se passera des tas de choses extraordinaires. Et moi, c'est ça qui me sidère.
Bon, enfin,
au-delà de la puissance de l'outil.
En attendant 15 jours, il sera là tout à l'heure. Interview à 20h, hein, John Boros, donc le patron de Grok.
Bravo. Ça sera 20h45 exactement. 20h45. On va débriefer un petit peu l'actu avant. Frédéric Simotel et Marjorie Paillon, et puis 20h45, cette interview donc.
Jonathan Ross, l'homme que le monde va apprendre à découvrir petit à petit, qui sera une star dans un an, nous dit François.
Allez, on lance les paris.
Merci beaucoup François, 18h58, c'est fini. Merci Manuel, Edwige, merci à lundi.
Merci. Le président du tribunal de commerce de Paris, il aura des chiffres tout frais sur les défaillances d'entreprises.
À lundi, avec plaisir, bien sûr. 18h58, nous on revient dans un instant. Le journal, on va revenir un peu sur le déplacement d'Emmanuel Macron du côté de Bergerac. Sur Christine Lagarde, qui nous dit beaucoup de choses sans vraiment en dire. C'est tout un art. Et puis on déroule l'actualité économique, bien sûr, avec nos experts de 19h15 à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron rappelle régulièrement, nous sommes entrés en mode économie de guerre. Il l'a rappelé aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement à Bergerac et il en a profité pour remettre un petit coup de pression aux industriels de la défense pour produire plus et plus vite. On va vous raconter ça dans un instant. Sinon, toujours pas de baisse de taux ce soir dans la zone euro, mais Christine Lagarde l'a dit, vous l'avez peut-être suivi sur BFM Business. Elle a dit sans le dire en fait, la prochaine pourrait bien être la bonne au mois de juin prochain. On vous raconte tout ça dans un instant avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure. On parlera avec eux de ces chiffres, des défaillances d'entreprises qui sont tombées ce matin, dont il ne faut pas trop s'inquiéter a priori. Alors qui sera avec nous justement dans un quart d'heure pour parler de tout ça? Marc Landré, pour Sia Partners, sera là. Bruno Alomar, le directeur général de New Horizon Partners, et l'entrepreneur Leonidas Kalogiropoulos. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
Good Evening Business, le journal.
Donc Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. Nous sommes entrés en mode économie de guerre. Il est allé poser la première pierre d'une usine qui va fabriquer de la poudre pour les obus. Il en a profité, je vous le disais, pour remettre un petit coup de pression aux industriels. Il faut produire plus et plus vite sur le sol français. Écoutez.
Et maintenant, c'est 500 millions d'euros qui vont être investis sur les 2 années qui viennent pour faire 2 choses qui sont au cœur de ce qui est au sein de l'économie de guerre et de ce que nous faisons ces dernières années partout sur le territoire. D'abord, continuer à investir pour accompagner cet effort de production et d'augmentation des capacités. Et puis, la relocalisation, dont vous nous avez souvent entendu parler, qu'on a commencé en période Covid, qu'on a fait sur le médicament et d'autres. Et ici, la relocalisation des poudres, qui avait été en effet abandonnée, qui montre qu'il n'y a pas de fatalité industrielle.
Voilà Emmanuel Macron ce matin du côté de Bergerac. Bonsoir Thomas Asportas. Il le dit, c'est important pour nous, c'est aussi important pour l'Ukraine qui a besoin d'être vraiment approvisionnée en obus, Thomas.
Oui, c'est avant tout pour l'Ukraine puisque le pays tire en moyenne deux fois moins d'obus par jour que la Russie. Et d'après l'OTAN, la Russie produit presque trois fois plus d'obus que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc il y a un déséquilibre majeur. Et c'est pour commencer à y remédier que la France veut relancer sa production de poudre à Bergerac. Chez Eurenco, c'est le fabricant historique depuis 1917, ça avait été complètement abandonné en 2007 parce qu'il n'y avait plus de commandes. C'était même devenu une friche. Et évidemment, tout a changé en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Et Eurenco doit maintenant complètement relancer la machine pour, vous l'avez dit, passer en économie de guerre, produire le plus possible, le plus vite possible. Ça se traduit très concrètement aujourd'hui par un investissement sur place de 60 millions d'euros. La nouvelle usine va ouvrir très vite, dès le début de l'année prochaine. 150 personnes vont être embauchées dans les 12 prochains mois et la capacité de fabrication sur place de poudre va être multipliée par 10. C'est l'illustration de ce que veut Emmanuel Macron, à la fois en termes d'économie de guerre, oui, mais aussi de souveraineté avec la relocalisation d'activités militaires, d'activités de défense et enfin de réindustrialisation avec la création d'une nouvelle usine et de nouveaux emplois.
Voilà pour le déplacement de Emmanuel Macron à Bergerac ce matin. Merci Thomas. Puis il se trouve qu'Emmanuel Macron était accompagné entre autres de Bruno Le Maire aujourd'hui. À un moment, vous savez, où on lit, on entend que les relations se sont clairement rafraîchies entre les deux hommes. Emmanuel Macron, en tout cas, a repris un message distillé, en particulier depuis quelques semaines par son ministre. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, hein, il le dit clairement, pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse. Je cite le président de la République. Dans l'actualité ce soir, je vous le disais, toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine fois pourrait être la bonne, c'est-à-dire au mois de juin. Conférence de presse que vous avez peut-être pu suivre cet après-midi en direct sur BFM Business. Je vous le disais, pendant ce temps, Gabriel Attal est au Canada. Il vient de donner une conférence de presse avec Justin Trudeau. Évidemment, on a parlé du CETA. C'est vrai que le Sénat français a rejeté le texte il y a trois semaines, mais Gabriel Attal a tenu à rassurer tout le monde. C'est un accord gagnant-gagnant. Autrement dit, on y arrivera. Écoutez.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près six ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Voilà, Gabriel Attal tout à l'heure du côté d'Ottawa. On parlera bien sûr de ce débat tout à l'heure avec nos experts sur BFM Business. Et puis en France, ça a donc été une des annonces choc de la journée. ExxonMobil qui réduit la voilure. Il va fermer plusieurs unités de pétrochimie en Normandie et surtout, il va vendre la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries présentes en métropole. Exxon explique très calmement que ses activités ne sont plus compétitives aujourd'hui. Léo Dumas.
Les unités de pétrochimie normande ne sont pas économiquement viables, assure ExxonMobil, qui dit accumuler des centaines de millions d'euros de pertes depuis des années. Le groupe américain les fermera avant fin 2024 et supprimera ainsi 677 emplois. Jean-Philippe Petit est le porte-parole d'ExxonMobil en France.
Nous avons des unités qui ne sont pas compétitives en termes de taille et en termes de consommation énergétique par rapport à ce que fait aujourd'hui la concurrence mondiale. La Chine, aujourd'hui, approvisionne le marché européen à des coûts nettement moindres que ce que nous pouvons produire sur notre site ici en local.
Pour la raffinerie de Fos-sur-Mer qui va être cédée au consortium suisse Rhône Énergie, Esso évoque aussi le maintien de sa compétitivité en France car dans les raffineries, les coûts de l'énergie sont un vrai enjeu. L'UFIP qui représente le secteur déplore la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité depuis le Covid et dans le même temps, la demande de produits pétroliers baisse. L'une des solutions est donc la conversion des sites en bioraffinerie pour produire des carburants à base de biomasse. Et ce sera bientôt la norme, estime l'UFIP, qui ne croit plus à des raffineries 100% pétrole en 2050.
Voilà, Léo Dumas avec nous sur BFM Business. Et puis on voulait dire un mot de cette nomination phare chez Gucci, navire amiral de Kering aujourd'hui. On vient de nommer un directeur général adjoint, il s'appelle Stefano Cantino. C'est lui qui va devoir essayer de relancer les ventes de Gucci qui sont attendues en baisse sur le premier trimestre. Hélène Cornet.
Reprise en main chez Gucci, un nouveau président, un nouveau directeur artistique et aujourd'hui un nouveau DG, Stefano Cantino, avait été rendu luxe qui a passé 20 ans chez Prada, 5 chez Louis Vuitton. Un remaniement en profondeur pour relancer la marque, le chantier est prioritaire et même impératif. Gucci, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de Kering, les deux tiers de son résultat opérationnel. Sauf qu'au premier trimestre, la marque ne fait plus office de locomotive, le groupe a prévenu, les ventes sont attendues en baisse de 20% en raison de la faiblesse du marché asiatique. Contrairement à d'autres maisons qui misent sur l'intemporel, Gucci a une clientèle plus jeune et un modèle économique qui s'apparente plus à celui de la mode, avec des collections qui se renouvellent plus rapidement selon les spécialistes du secteur. Tout l'enjeu est donc de la faire monter en gamme avec des produits iconiques qui plairont à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Le souci, c'est que cette stratégie est surtout payante sur le long terme.
Voilà, nomination phare chez Gucci. Aujourd'hui, Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h10, on retourne sur les marchés. Alors ces marchés, bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Le CAC 40, donc petite baisse ce soir, moins 0,27%, 8023 points à la clôture. C'est contrasté, on va le dire comme ça, Étienne, à Wall Street.
Oui, avec notamment un indice Nasdaq qui est en pleine forme, qui gagne plus d'1%, et S&P qui gagne 0,5% quand le Dow Jones fait du surplace. Donc vous avez des valeurs technologiques qui sont toujours très largement recherchées aux États-Unis. Quand vous regardez notamment hier une correction de 10% par rapport au plus haut d'Nvidia. Et puis là, le titre part déjà de l'avant, plus 3%, avec tous les analystes qui disent bah, il faut acheter, c'est maintenant ou jamais, surtout que TSMC a publié ses résultats, il y a toujours une forte demande. Donc vous avez des large caps bah, qui sont là et qui trompent l'œil un petit peu bah, cette tendance à Wall Street, hein, plus 2% pour Apple, plus 0,8% pour Microsoft, alors que l'obligataire continue de grimper, avec notamment un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de novembre dernier, au-delà des 4,56, même 4,60 en séance, parce que vous avez plusieurs membres de la Fed, aujourd'hui président de la Fed de Richmond, président de la Fed de New York, qui continue de dire il est beaucoup trop tôt pour baisser les taux, on n'est pas forcément à l'aise avec les chiffres d'inflation, donc les estimations d'il y a encore quelques semaines, bah, c'est poubelle, hein, il n'y aura pas de baisse des taux au mois de juin. Bah ouais, mais bon, pour le marché, ça change quand même. Hein, ça change totalement le scénario un petit peu magique hein, qui avait été donné en début d'année, qui avait amené les indices sur des niveaux records. Et puis surtout, vous avez un dollar qui continue d'être recherché et qui se rapproche des 1,07. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, surtout pour Christine Lagarde si elle souhaite baisser ses taux au mois de juin.
C'est poubelle, ça sera l'expression du jour. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h12, une petite pause, on revient avec nos experts dans un instant. On a encore beaucoup de choses ce soir. Christine Lagarde qui a rien dit, mais enfin on a compris. Allez, ça y est, on baissera les taux au mois de juin. Emmanuel Macron en mode économie de guerre aujourd'hui à Bergerac avec Bruno Le Maire qui était là. Il y a eu une petite prise de parole intéressante. Et puis Gabriel Attal qui va ramer un petit peu du côté du Canada pour expliquer à Justin Trudeau que nous, on n'a pas l'intention justement de jeter à la poubelle le fameux CETA. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres bien sûr. À tout de suite.
Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour refaire toute l'actu du jour. Marc Landré est avec nous. Bonsoir, cher Marc. Bonsoir. Consultant associé chez SIA Partners, Bruno Lomar est avec nous. Bruno, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, directeur général de New Horizon Partners, ancien fonctionnaire à la Commission européenne. Et puis Leonidas Kalogiropoulos est avec nous.
Leonidas, bonsoir.
Bonsoir, PDG de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci, messieurs.
Merci.
De venir commenter cette actu qui reste fournie, hein, malgré les vacances. Il n'y a plus de trêve, finalement, pour l'actualité.
Et les vacances?
Oui, on est en vacances officiellement pour les Parisiens. Oui, je sais, c'est pas votre cam. Allez.
C'est pas mon truc.
C'est pas votre truc fondamentalement.
Non, fondamentalement, vous avez raison.
On est heureux de vous avoir avec nous. Bon, alors c'était presque les vacances pour Christine Lagarde, qui nous a pas annoncé grand-chose aujourd'hui, qui nous a dit bah non, on touche pas au taux d'intérêt, on est toujours à 4%. Mais enfin bon, elle a l'air de faire passer des messages. Elle a appris, hein, c'est ça, les banquiers centraux. Et elle le dit a priori entre les lignes.
Il y a un tournant
et la prochaine encore. Fois en juin. Ah, ça sera la bonne. Écoutez, Christine Lagarde tout à l'heure à Francfort.
Le Conseil des gouverneurs a décidé ce jour de laisser inchangés les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE. Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. Nous estimons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui contribuent fortement au processus de désinflation en cours.
assez chirurgical. Hein, donc, oui, franchement, il n'y a pas de quoi. Il faut vraiment lire entre les lignes. Non, mais en juin, ça sera la bonne. Ça y est, on va commencer.
Bon, clairement, on a fait le job. C'est en train de revenir. Voilà. Le truc est en train de retourner dans son lit et on va arrêter. Non, ce que je trouve simplement, on va parler ensuite de la situation de l'économie.
Ouais.
On peut pas décemment dire, ah, c'est bizarre, il y a une croissance qui est plus faible que prévu. On a jugulé la croissance. Donc, il y a des arbitrages qui sont faits. Ce sont des arbitrages qui sont faits par une autorité qui est indépendante, qui est la BCE. C'est fait pourquoi, lorsqu'il y a trop d'inflation, on dit qu'il y a trop d'économie, il y a trop d'activité. Mmh. Il faut donc vraiment pénaliser l'activité. On a pénalisé l'activité. Et donc, on va avoir dans nos sujets le nombre d'entreprises en défaillance. Tout ça est quelque part le fruit d'une politique.
Bruno Alomar, vous considérez qu'elle a bien mené sa barque et qu'il est temps véritablement de baisser les taux d'intérêt dans la zone euro? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, maintenant, finalement? Certains disent on aurait bien. Il n'y aura pas des réunions de la BCE avant deux mois, donc certains auraient plaidé pour que ça se fasse dès aujourd'hui.
Dès aujourd'hui, oui.
Bien mener sa barque, je ne sais pas. C'est pas elle qui décide. C'est le Conseil des gouverneurs. Donc, c'est une décision collégiale. On n'a pas tellement l'habitude en France des décisions collégiales, donc c'est pas sa décision, c'est la décision d'un groupe de 24 personnes ou 25 personnes, si je me souviens bien. Moi, j'ai souvent dit sur ce plateau que la politique monétaire, c'est quelque chose à la fois d'extrêmement compliqué, sur lequel j'ai essayé d'être très prudent, d'autant plus prudent que beaucoup de banquiers centraux, et y compris des très bons banquiers centraux, j'ai pas dit que c'était son cas, c'était planté dans le passé. Ce que j'observe, mais c'est peut-être une réflexion à caractère plus général, c'est que ça tombe bien parce que juin, c'est aussi les élections européennes. Et j'observe que la question de l'euro, de la gestion de l'euro, ne devrait pas être un sujet d'hystérie pour les élections européennes et le début de la prochaine mandature de la Commission.
Ça ne l'est pas.
Ben ça, c'est peut-être un succès pour les gens qui pensent que l'euro, c'est une bonne chose.
Oui. Marc Landré. Oui.
Bon, cette non-décision est une non-surprise. Elle était attendue par les experts, cohérente, logique, annoncée. On sait depuis l'automne qu'on est sur un plateau en termes de taux d'intérêt. La question était quand est-ce que la baisse allait commencer? Est-ce que c'était au printemps? Est-ce que c'était au début de l'été? On a la réponse au début de l'été, c'est cohérent. La BCE mène la politique pour laquelle elle est mandatée, qui sont dans ses statuts. Elle le fait de manière indépendante. Elle n'a qu'un leitmotiv, l'inflation.
Oui.
L'inflation.
Oui.
L'inflation.
Et l'inflation, voilà, le mandat est clair.
L'inflation est en tendance à la baisse.
C'est ça l'avantage d'avoir un mandat aussi clair, c'est que vous êtes débarrassé de considérations politiques, c'est ça qui est formidable.
Hors crise fondamentale, comme le Covid. Au moins, c'est clair, net et précis, chirurgical.
Oui, non mais ça pose quand même un débat qui n'est pas neutre. Parallèlement à cette situation, l'économie a souffert. Parce que l'économie a souffert, on a continué à avoir, en tous les cas, on a retardé les mesures consistant à dire on arrête avec le quoi qu'il en coûte, parce qu'on voyait bien que ça n'est
c'est pas...
En France, j'entends bien. Mais avouez, franchement, Marc, quelque part, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Vous avez un budget de l'État qui essaye de maintenir l'économie, voire de la booster, et de l'autre côté, une politique monétaire qui cherche au contraire à juguler l'activité. Donc vous avez là une tension, et enfin on ne va pas dire que l'un ou l'autre a raison.
Toute la difficulté de l'exercice, ça c'est
mais
pas nouveau.
Mais on a deux entités publiques qui ont deux légitimités contradictoires.
Et deux objectifs
et deux
différents.
Objectifs différents. Et donc c'est enfin, quand même très très étonnant. Et au milieu, vous avez très objectivement aussi des entreprises qui se sont retrouvées dans des difficultés et qui sont en train de subir les conséquences. Est-ce que, enfin moi, le seul doute que j'ai, mais on ne saura pas trancher ce doute, c'est est-ce que les difficultés économiques globales, planétaires, sur l'énergie, les tensions du commerce international, ne suffisaient pas à ralentir l'économie et à parvenir à un ralentissement de l'inflation? Est-ce qu'il fallait en plus mettre des louchers de taux d'intérêt? C'est une question que l'on ne saura pas trancher ce soir.
Bruno, non, là-dessus, encore un mot, non. Ah. Non, bon, on attend le mois de juin, quoi.
Voilà. Oui, alors après, la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis.
Ah, parce que mais c'est autant, pas la même, là. C'est... Là, vous avez vu que les échéances sont repoussées, qu'on parle plus de baisse des taux avant le mois de septembre
prochain. Exactement, voilà, parce que la situation n'est pas la même qu'en Europe, parce qu'il y a les élections américaines aussi qui créent crée un certain nombre d'incertitudes et parce que les prévisions, enfin, la réalité de baisse de l'inflation ne correspond pas aux prévisions. Elle est plus lente que prévu. Et donc la Fed, qui a toujours eu tendance par le passé à être plus réactive et à tenir plus compte de l'évolution de l'économie que de l'inflation, là, pour l'instant, étant dans un entre-deux, et probablement que ça pourra avoir un effet sur la politique conduite par la BCE en juin ou pas, en fonction des décisions qui seront prises ou non par la Fed aux États-Unis.
Voilà pour la Banque Centrale, donc, et Christine Lagarde attendue au tournant en juin prochain. Emmanuel Macron à Bergerac aujourd'hui, alors en mode économie de guerre, on va en parler dans un instant. Je voudrais juste vous faire écouter, parce que figurez-vous qu'à Bergerac, il y avait du monde. Et il y avait Bruno Le Maire, notamment, qui était là. Vous savez qu'on entend dire, on lit que les relations se sont rafraîchies entre les deux hommes. Bah, Emmanuel Macron a répondu à une question que lui a posée un journaliste. Est-ce qu'il y a une friture entre vous et Bruno Le Maire, vous savez, sur les hausses d'impôts? Ouh là là, il est parti comme un geyser, le président de la République, sur ce coup-là. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure à Bergerac.
On garde le cap. Plein emploi, réindustrialisation, réarmement de nos services publics. Deux, on ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française, ça enlèverait de la confiance. Garde la confiance des ménages, des entreprises, de nos partenaires. Trois, on est responsable. Ce choc conjoncturel, on doit y répondre de manière appropriée et tout de suite. Ça a été les premières économies sur le financement de l'État. Et c'est deuxième partie, après le même taux d'effort d'économie, pour tenir un déficit de 5,1 cette année.
Je vais vous faire écouter, puis vous le voyez, pour ceux qui nous regardent à la télévision, parce que vous avez Bruno Le Maire qui est derrière, qui n'est pas un mot. Ouais, ça ne sent pas non plus la cordiale entente, finalement. Là, quand même.
Oui, mais bon...
C'est une sacrée séquence, quand même. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Quoi.
Non, mais objectivement, c'est une séquence qui est très intéressante, mais on est dans un moment où on sent bien que la situation économique se tend, les déficits sont là... Et on ne va pas en plus y rajouter une crise à Bercy. Donc, ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est non, il n'y aura pas de changement de tête à Bercy. Le cap, il est maintenu, on est raccord, et qu'on arrête ce petit scénario qui était en train de tourner, qui était de se dire, est-ce qu'il prépare le fait qu'il s'en aille de lui-même, ou est-ce qu'on prépare le fait qu'on va s'en séparer.
Ça ne va pas s'estomper d'ici les européennes, les spéculations.
Je pense que ça, on vient de clore la séquence.
Bruno, comment est-ce que vous regardez cette séquence, vous?
Il y a la péripétie politique. De toute façon, tout le monde a bien compris que le vrai ministre des Finances en France, il s'appelle Emmanuel Macron, et que ce que peut dire M. Le Maire n'a absolument aucun intérêt. Ça, c'est la première chose. Comme la plupart des autres ministres, parce que tout se décide à l'Élysée, nous le savons tous très bien. La deuxième chose, c'est cette idée d'économie de guerre. Moi, je trouve ça très intéressant, et comme je suis un peu l'Européen de l'étape, comme je dis toujours, je trouve très noble l'idée de dire, et très juste l'idée, qu'il faut muscler notre économie et se préparer à consacrer des efforts, à s'armer, etc. Et d'ailleurs, il y a des idées européennes pour les prochaines élections européennes, la prochaine mandature, etc. Ce que je voudrais juste te dire, c'est que ça n'a pas l'ombre d'une crédibilité, ce que le président dit à Bruxelles. Ça n'a pas l'ombre d'une crédibilité. Quand vous êtes le cancre financier de la classe, ce qu'est la France, vous ne venez pas dans une Union européenne où on vous regarde toujours d'abord avec cette question, comment sont vos finances publiques? Parce que l'Union européenne, c'est d'abord un marché et des finances, ça a toujours été ça. Et même si vous avez une arme atomique, etc., et des armées, une armée très bien, etc., vous n'êtes simplement pas crédible. Donc moi, ce qui me choque, c'est le décalage extraordinaire entre l'opération de com et les mots, l'économie de guerre, etc., et comment tout ça est reçu.
Ça fait deux ans qu'ils parlent d'économie de guerre.
Oui, mais ça fait deux ans.
Moi, j'avais. Depuis Covid.
Mais encore. 2022, non,
mais encore une fois.
Covid.
Exactement.
Déjà la guerre,
exactement.
Hein.
Mais encore une fois. Mais sur le fond, moi, je pense qu'il a raison. Mais en 2018, j'avais écrit un article qui disait il faut passer de l'État-providence à l'État-puissance. Et on était. Je suis pas le seul. Beaucoup de gens. Donc moi, j'ai beaucoup de sympathie avec le principe. Mais simplement, je suis comme toujours, avec nos présidents, c'est pas le seul, effaré entre à quel point les mots sont perchés et la réalité est basse. C'est
tout. Marc Landré.
Je vais avoir une lecture un peu différente. Ça, c'est peut-être mon passé de rédacteur en chef au Figaro qui m'y pousse. On regarde cette séquence depuis quelques semaines, quelques mois, avec nos regards d'économistes. Donc, on regarde les chiffres, l'attitude à Bruxelles, etc. Je pense que on fait fausse route. Il faut mettre ses lunettes politiques pour regarder la séquence actuelle. Les réponses, non-réponses, les coups de Trafalgar, Bercy, Matignon, l'Elysée. C'est quel est l'intérêt de l'un et de l'autre à jouer un jeu en ce moment?
Ah bah je vous le demande. L'intérêt de Bruno Le Maire, allez, on va
l'intérêt de Bruno Le Maire, c'est d'essayer de retrouver une crédibilité qu'il a perdue avec ses résultats économiques catastrophiques, dont il est responsable.
redevable. À un moment où il écrit un livre en disant il faut faire des économies, la gratuité c'est fini, il faut taper dans l'art. Comme a dit le président de la République quand il a reçu le livre de Bruno Le Maire en main propre, tu devrais en parler au ministre de l'économie qui est là depuis 7 ans.
Ouais, c'est ça.
Donc on est dans un jeu, une séquence politique où chacun est en train de se regarder, de se jauger, parce que l'un comme l'autre, à des degrés divers et avec des intérêts divergents, prépare 2027. Et donc la question n'est pas de savoir ce que dit ou pense Bruno Le Maire, c'est quelle est sa stratégie pour se mettre en position de rampe vis-à-vis de 2027 par rapport à ses concurrents internes au sein de la majorité, que sont Édouard Philippe aujourd'hui et Gabriel Attal.
Mais je suis d'accord avec le propos de Marc Landré. C'est effectivement un moment très politique, mais finalement, il vient d'être politiquement clos. Je veux dire par là que chacun vient de se dire c'est pas le moment.
Jusqu'à preuve du contraire. Qui peut très bien arriver la semaine prochaine.
Mais de dire ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment, c'est peut-être sur leurs intérêts politiques, mais je pense aussi, et ça, de ce point de vue-là, c'est aussi l'intérêt de la France, c'est certainement pas le moment. Lorsque les chiffres commencent à déraper, lorsque on a des agences de notation qui peuvent nous mettre vraiment dans une situation très compliquée, et tout ça à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Surtout à 2 mois de l'élection européenne.
Et à 2 mois de l'élection européenne. Ce n'est pas le moment. Et je pense que ce n'est pas le moment, ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour le pays.
Bruno Alomar.
Moi, je trouve que c'est la façon dont on réagit est très symptomatique du problème. Ça fait 3 minutes qu'on en parle. On ne parle pas du réel. Mmh. On parle des jeux politiques.
Je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le réel.
C'est parti sur l'Europe de la défense.
Je ne suis pas d'accord avec vous sur le réel.
Bien sûr qu'à un certain moment, il y a un peu de réel qui vient des jeux politiques, etc. On élit des gens, c'est la démocratie, etc., etc. Mais les vraies questions à se poser, c'est est-ce que ça avait du sens d'aller à Bergerac? Qui concrètement va être fait?
Vous posez la question de savoir si ça avait du sens. Je pense que oui.
Et je pense que c'est oui, parce qu'en l'occurrence, là où j'ai un désaccord avec vous sur le réel, les chiffres sont pas bons, il va pas dire qu'ils sont bons. Mais on a une stratégie d'investissement, et la stratégie d'investissement, on le sait tous, ça prend du temps. Le moment où on met l'argent, on mobilise France 2030, la BPI sur l'accompagnement de la réindustrialisation, on n'a pas les résultats en temps médiatique, ni d'ailleurs en temps politique. Ce sont des résultats qui arrivent 2-3 ans après, dans le meilleur des cas. Donc oui, c'est très important d'être à Bergerac, c'est très important de donner ce signal, et les résultats concrets en termes de production souveraine, en termes d'emploi derrière et de création de richesses, ils viendront un peu plus tard.
La réalité des chiffres, ça c'est l'ancien budgétaire du ministère des Finances. L'ancien budgétaire du ministère des Finances qui parle, c'est que quand on a les déficits qu'on a, on n'aura pas de quoi financer nos besoins militaires, nos porte-avions, nos avions, une armée de métiers avec des gens motivés et de très haut niveau. On arrive à un moment où on n'aura plus l'argent pour le faire. Et ça, c'est pas des fantasmes, c'est la réalité de la contrainte financière dans laquelle nos élites
Les deux ne sont pas contradictoires. Quand on est en phase d'investissement, on peut dire vous êtes en perte. Non, on est en phase d'investissement et c'est pas la même chose.
Voilà pour ce déplacement d'Emmanuel Macron à Bergerac, qui a remis un petit coup de pression évidemment sur les industriels en disant oui, effectivement, c'est du temps long, mais il y a toujours cette menace des réquisitions qu'anime Sébastien Lecornu depuis maintenant des semaines. Réquisition de stock, d'unités de production, de personnel, voilà.
Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir cette pédagogie vis-à-vis du pays.
Allez, 19h30 sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 19h30, je vous donne les grands titres de l'actualité ce soir. Donc toujours pas de baisse de taux d'intérêt dans la zone euro. La Banque Centrale les a laissés à 4%, mais Christine Lagarde a quand même laissé entendre lors de sa conférence de presse que la prochaine pourrait être la bonne, à savoir le mois de juin prochain. Emmanuel Macron, donc à Bergerac, sur un thème qu'il déroule depuis 2 ans. La France, il le répète, est entrée en mode économie de guerre. Il est allé poser la première pierre d'une usine de poudre pour obus. Il en a profité pour remettre un petit coup de pression aux industriels, puisqu'il leur a redemandé de mener un effort durable, je cite, pour produire plus et plus vite sur le sol français. Emmanuel Macron qui a fait aussi une mise au point, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour régler le choc conjoncturel actuel. On ferme tout de suite cette hypothèse, je cite le président de la République, message que distille à souhait Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, qui était donc aussi du déplacement. Et puis en France, ça a été une des annonces choc de la journée, ExxonMobil qui va réduire la voilure en France, qui supprime 677 postes,
qui va notamment fermer la raffinerie de Fos-sur-Mer, qui est l'une des 7 raffineries basées en métropole. Exxon explique que ses activités ne sont tout simplement plus assez compétitives. 19h32, on revient dans un instant avec nos experts qui sont là jusqu'à 20h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est de retour jusqu'à 20h avec nos experts. Marc Landré est avec nous, Bruno Alomar aussi, et Leonidas Kalogiropoulos également. Je veux dire un petit mot de ces chiffres qui sont tombés ce matin. Chiffre des défaillances d'entreprises du premier trimestre. C'est le cabinet Altares qui fait référence sur le sujet, qui nous donne ces chiffres. Voilà, qui nous dit, voilà, au premier trimestre 2024, il y a eu un peu plus de 17 000 défaillances d'entreprises enregistrées. Et sur un premier trimestre, on n'a pas vu des chiffres pareils depuis 9 ans, depuis 2015. Mais écoutez, Thierry Millon, le directeur des études d'Altares, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business, il nous dit, globalement, on n'est pas trop inquiet chez nous de ces chiffres. Écoutez ce qu'il nous disait.
Nous sommes, après la Covid, à attendre que les niveaux de défaut soient très élevés, et ils le sont. Et nous avons un premier trimestre qui continue, comme le quatrième de 2023, à être élevé. En revanche, plus 20%, même si ça reste beaucoup, c'est deux fois moins que ceux que nous avions au cours des deux années précédentes. Ouais. Pour autant, en termes de tendance, parce que c'est là où les données sont les plus sévères, c'est sur les PME, de 50-200. Donc, nous sommes sur des employeurs de territoire, dans toutes les régions. Et nous avons là, évidemment, une économie qui est fragilisée parce qu'il s'agit de sous-traitants, d'équipementiers qui, s'ils sont en défaut, évidemment, ne pourront pas servir la filière, même si cette filière devait être une filière en forte activité.
Voilà, Thierry Millon, directeur des études d'Altares. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a un an, rappelez-vous, on disait le phénomène était surtout concentré sur les TPE. Là, c'est du côté des PME que ça s'agite, PME, malheureusement, de plus en plus.
Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est
là, il y a un souci, on est sur des gros employeurs. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est l'énergie, c'est le crédit. Enfin, il n'y a pas que les impôts qui, lorsqu'ils augmentent, fragilisent les entreprises. Les conditions de marché sont globalement au ralenti. Oui, il y a une croissance au ralenti. Et il y a les PGE à rembourser. Enfin, tout ça, ce sont des circonstances qui font que la situation économique se contracte. Eh bien, il y a des défaillances. Parallèlement, on est toujours sur des pics toujours dépassés de création d'entreprises.
Ouais. Grâce aux auto-entrepreneurs.
Pas seulement, non,
Marc, majorité quand même.
Mais vous le savez fort bien, et ça n'enlève en rien le fait que le tiers d'entreprises de plein exercice, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont créées, sont toujours plus hauts de mois en mois, d'année en année. Et ce tiers, c'est quand même 300 000 entreprises qui se créent en France. Alors, vous pouvez dire qu'il y a deux tiers d'auto-entrepreneurs.
Je vous ai vu tiquer quand Leonidas, Marc, disait il y a les PGE à rembourser. Si, ça fait partie de l'équation,
oui,
quand même.
Oui, c'est l'équation, mais en fait... Qu'il y ait une augmentation des défaillances d'entreprises quand l'économie se dégrade, c'est tautologique. C'est digne de monsieur de la palisse. Oui, donc on ne peut pas s'attendre à autre chose.
On est à 64 000 sur cette année, qui est quand même un petit peu supérieur au rythme de croissance des autres.
Le vrai problème, il est que pendant des années, on a maintenu l'économie et les entreprises, notamment les PME, sous perfusion, et qu'on a engendré un certain nombre d'entreprises zombies qui aujourd'hui défaillent.
Les entreprises zombies, elles n'ont pas 50 salariés quand même.
Non, mais elles en ont plus. Et là, on parle d'entreprises qui ont plus de 50 salariés, qui sont défaillantes.
Il n'aime pas le terme d'entreprise zombie.
Oui, mais peu importe. On peut trouver
non, mais il y a des entreprises zombies de 3-4 salariés.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le quoi qu'il en coûte a aujourd'hui cet effet nocif qu'on a maintenu sous perfusion des entreprises qui auraient dû mourir et qui meurent aujourd'hui. Et donc, en vérité, on n'a qu'un effet de décalage des défaillances qui ne sont pas intervenues au moment de la crise du Covid, qui interviennent maintenant et qui se cumulent avec le flot naturel de défaillances d'une économie en perte de vitesse avec des instantanés ou des fondamentaux qui vont pas bien. Et on regarde quoi ? C'est dans le bâtiment, c'est dans les services aux entreprises.
Mobilier,
donc c'est assez classique.
Le bâtiment va très mal, effectivement.
Le bâtiment va très mal. Il y a le secteur qui reprenne un petit peu.
Sur les PGE, parce que vous m'avez posé la question.
Oui.
Sur les PGE. Les PGE, c'est 5% de la dette des entreprises en France.
Oui, c'est pas grand-chose.
Est-ce qu'on ne sait pas, notamment des PME, et les PME ne le savent pas parce que le job est mal fait et mal dit, la communication est mal passée. On peut rééchelonner ces PGE et aller jusqu'à 10 ans de rééchelonnement. Donc ça, les entreprises ne le savent pas.
A priori, les entreprises qui le font sont dégradées dans leurs notes.
Pour 6 mois, pas plus. Et j'invite n'importe quelle entreprise qui se pense être dégradée à intervenir auprès du médiateur de crédit qui va, non pas résoudre la situation, mais qui va en tout cas avoir une oreille bienveillante pour faire en sorte que la Banque de France ne soit pas trop sévère sur ces questions-là.
Bruno Alomar, il vous inquiète ces chiffres donnés par le cabinet Altares?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, c'est très logique que quand le climat économique global et la croissance se réduisent, ça a été dit. La vraie question, c'est est-ce que la croissance potentielle de la France va repartir?
Vous avez les nouvelles projections de Bruno Le Maire, alors c'est la fête pour les prochaines années. 1% cette année, de mémoire, attendez.
Ouais,
1% cette année, 1,4, 1,8.
À 4,
8.
Tout va bien alors. On a un grand économiste à Bercy. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça.
Vous me permettez de le croire?
Par ailleurs.
Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est faisable.
C'est vrai?
Je pense que c'est faisable parce que
c'est faisable. Enfin,
est en train d'investir dans des filières qui sont des filières d'avenir.
Bon. Une vraie question derrière tout ça, c'est. Il y a celles qui se détruisent, mais il y a celles qui se créent. C'est Frédéric Bastiat qui disait en économie, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on voit pas. Donc il faudrait avoir le solde. C'est un petit peu grossier parce que il faut voir concrètement combien il y a de personnes et les secteurs, etc., etc. Après, la vraie question, c'est on est en 2024, entreprendre, développer de l'activité économique aujourd'hui dans cet océan de contraintes, est-ce significativement plus facile et donc mieux pour tout le monde que ça l'était par exemple en 2017? C'est une vraie question.
Enfin, votre
question est rhétorique parce que au ton de votre voix, on a la réponse.
Oui,
comment vous projetez alors le nombre de domaines dans lesquels il y a des investissements productifs? Et puis autre chose, qui une inflexion qui me semble très intéressante, c'est que l'État est en train de se dire, quitte à ce que je mette de l'argent sur certains secteurs, je pense à un secteur que j'accompagne actuellement qui est celui des fauteuils roulants pour personnes en situation de handicap. Le président de la République a dit qu'il allait prendre en charge, il fallait que la France prenne en charge le remboursement intégral. Aujourd'hui, 95% des fauteuils roulants en France sont fabriqués en Chine. Heureusement, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire quitte à ce qu'on mette tout cet argent sur la table, peut-être qu'on ne va pas le faire pour creuser davantage notre déficit commercial et essayer de voir comment on peut en faire une filière industrielle en France. Tout ça, ce sont des inflexions dans le raisonnement, des inflexions heureuses qui, derrière, si elles fonctionnent, emmèneront beaucoup de croissance derrière.
Bruno, pour conclure là-dessus.
En l'état, M. Macron, c'est 1 000 milliards de plus de dette. J'ai pas du tout l'impression que l'économie française aille mieux aujourd'hui qu'en 2017. Voilà. Mais j'ai peut-être tort.
Bien. Écoutons Gabriel Attal qui est arrivé.
Excusez-moi, juste pour conclure, on peut être d'accord avec les deux points de vue. On peut considérer. Non, mais je vous le dis.
C'est le en même temps
macronien. Non, c'est pas du tout le en même temps macronien. On peut tout à fait reconnaître, sans se cacher les yeux, que les résultats économiques devraient être meilleurs que ceux qu'ils sont aujourd'hui, tout en considérant que l'on a considérablement investi dans des filières d'avenir et qu'à un moment donné, cet investissement paiera.
Écoutons Gabriel Attal qui, pendant ce temps, est arrivé au Canada. Il a donné une conférence de presse avec Justin Trudeau tout à l'heure à Ottawa. Alors, vous me voyez venir, ils ont parlé du CETA, vous savez, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Vous savez qu'il y a 3 semaines, le Sénat français a voté contre sa ratification. Donc Gabriel Attal a tenu à rassurer Justin Trudeau. Oui, c'est un bon accord. Sous-entendu, on va y arriver. Écoutez, tout à l'heure.
C'est un accord gagnant-gagnant et on le voit aujourd'hui, les chiffres ne mentent pas. Depuis qu'il a été signé, depuis qu'il est en vigueur, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans, les échanges entre nos deux pays ont progressé de plus d'un tiers. Et ils ont progressé de façon équilibrée. Il y aurait beaucoup à perdre pour l'économie française, globalement pour nos économies, à ce que le CETA ne s'applique pas.
Alors là, c'est une opération des minages, Bruno Alomar. On peut le dire comme ça, finalement, pour Gabriel Attal.
Mais c'est normal, il est tout à fait dans son rôle. Moi, je voudrais faire 2-3 observations là-dessus. On ne peut pas vouloir tout et son contraire en matière européenne. Là, c'est le professeur en question européenne qui parle. On voudrait que l'Union européenne soit plus démocratique. Et donc, par exemple, que le Sénat français puisse s'exprimer sur le sujet. Si on fait ça avec tous les pays, il y avait eu un sujet il y a 2 ou 3 ans avec la Wallonie, Monsieur Magnette, un Européen, qui avait bloqué, je me souviens. On ne peut pas voir tout et son contraire. On ne peut pas dire d'un côté, encore une fois, il faut que l'Union européenne elle soit plus démocratique, mais en même temps, il faut qu'elle soit plus efficace et moins technocratique. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être pour vos auditeurs ou téléspectateurs, il y a cette idée qu'on oublie toujours, c'est que un accord de libre-échange, pour prendre une image, c'est du sur-mesure sur un costume. Mais on n'a pas besoin d'accord de libre-échange pour faire du commerce. On n'a pas d'accord de libre-échange avec la Chine et on n'a pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et on fait du commerce avec eux. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne fallait absolument pas en faire. C'est pour dire qu'il faut peut-être ne pas donner trop d'importance au fait qu'on a des accords de libre-échange.
C'est une question de moment, de timing. C'est arrivé en pleine crise agricole sur le Mercosur. Vous avez vu comment ça s'était venu. Évidemment, c'est une question de séquence. Marc Landré.
C'est un sujet compliqué parce que où les amalgames se multiplient, croisés avec de l'opportunisme politique. Et on fait payer un traité qui a été bien négocié, qui a de bons résultats, les affres de la politique française, à un moment où il y a, comme vous le disiez, une crise agricole, à un moment où on est à la veille des élections européennes où le gouvernement, la majorité est en difficulté.
Les communistes ont trouvé un trou de souris il y a quelques semaines.
Avec les Républicains au Sénat pour voter contre un texte. Après, c'est la démocratie. Je veux dire, soit on vit en autocratie, et je pense qu'effectivement Emmanuel Macron, il aime ce mot d'autocratie, et il en est peut-être même un synonyme, et la souveraineté du Parlement. Mais ça me fait penser exactement à la Constitution européenne de 2005. Hein. Le peuple français vote contre, on s'en fout. On s'en fout.
Bon.
On s'en fout et on le fait ratifier 3 ans plus tard en douce. Bon, bah là, qu'est-ce qui va arriver?
Quand même.
Bruno, et puis. Ouais.
Je me permettrai d'être en désaccord sur le fait de le ratifier en douce, quel que soit ce traité. Le président Sarkozy a été. Le candidat Sarkozy en 2007 a été très clair. Il a dit je proposerai aux Français un traité parce qu'il y a besoin d'un traité et il ressemblera énormément au traité que vous avez refusé par référendum. Donc, simplement, voilà, dire en douce, c'est. Pour reprendre votre expression, oui, un peu plus compliqué que ça.
Bon, on ne peut pas faire du sur-mesure. J'aime bien, j'achète l'expression, on ne peut pas faire du sur-mesure dans les accords commerciaux.
Mais enfin, écoutez, en tous les cas, c'est vrai que la démocratie, c'est plus compliqué que l'autocratie. Mais l'autocratie, il y a plein de désavantages. Mm-hmm.
Je suis d'accord.
Moi, je prends la complication de la démocratie avec ses désavantages et avec ses avantages aussi. Je pense que l'équilibre est gagnant.
Bruno, peut-être aussi un complément, c'est que si on, entre guillemets, on dézoome un tout petit peu, ce problème de la France et du commerce, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, le problème c'est que commercialement, l'Union européenne, globalement, ça marche. Elle est encore excédentaire. Mais dedans, il y a un pays qui ne marche pas du tout. C'est le nôtre. Et ce pays fait en grande partie peser sur le système européen la responsabilité de ses propres erreurs. La désindustrialisation, c'est les 35 heures, les impôts de production trop élevés, l'école qu'on a détruite, les services publics qui ne marchent pas bien, etc. Tout ça, c'est franco-français. Et Emmanuel Macron, je me souviens très bien, juste avant d'être élu en 2017, il avait dit, mais c'était aussi une campagne électorale, il avait dit « l'Europe est trop naïve, il faut que ça s'arrête, tout ça ». C'est exactement le sujet qui n'a toujours pas changé. Mais quelques semaines après son élection, il y avait 6, 7, 8 États européens du Nord poussés par l'Allemagne comme d'habitude.
Les frugaux.
Voilà, il est pas question de rien changer à la politique commerciale de l'Union européenne parce que globalement, elle marche. Je pense moi plutôt qu'elle marche.
Marc Landré.
C'est un point là, on prend la loupe et on regarde la situation entre la France et le Canada, mais on oublie de demander à nos partenaires européens ce qu'ils pensent de cette défiance du Parlement français par rapport à un accord gagnant-gagnant. Ça nous fragilise encore plus sur la scène européenne, je dirais plus que par rapport au Canada.
Non mais c'est pour ça que Gabriel Attal est au Canada, pour effectivement dire...
Il devrait être à Bruxelles, à mon avis.
Ce n'est pas... le Sénat qui est à lui tout seul... le reflet du pays dans son intégralité. Là où je trouve effectivement, mais ça fait partie des jeux démocratiques, ce vote du Sénat est vraiment un vote malheureux. C'est vraiment un vote politicien dans le sens le moins noble du terme.
Je veux avoir votre avis sur ce qui a été quand même une des annonces chocs de la journée en France. Vous avez vu ExxonMobil qui réduit la voilure en supprimant 677 postes. Alors ils vont supprimer ils vont vendre notamment la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, un vapeau-cracker aussi en Seine-Maritime. 677 emplois supprimés au total. Peut-être s'intéresser plus à ce qui se passe du côté de Fos-sur-Mer parce qu'ils le disent très clairement, on est sur une activité qui est plus compétitive aujourd'hui, malheureusement, par rapport à d'autres entités. Bah oui, parce que le raffinage, faut acheter sa propre énergie, du gaz, de l'électricité, que le gaz coûte encore plus cher aujourd'hui qu'avant période avant Covid. Donc finalement, on s'y retrouve de moins en moins. Finalement.
Oui, mais c'est vrai que globalement,
et puis la montée en puissance de l'électrique. Alors pourquoi?
Mais oui, mais on est en train, Enfin, je suis pas certain que la planète, dont le climat n'a pas de frontières, gagne beaucoup à ce que on ait des activités dans le pétrole que l'on importe.
La demande
et qu'elle soit.
Mais on a, il y en a de moins en moins. La demande est là, pour non, encore longtemps.
La demande est là, et pour longtemps.
Encore un certain temps, Léonidas.
Et on néglige les performances de notre propre industrie en se résignant à importer ce dont nous avons besoin, qui est généralement produit dans des conditions infiniment moins écologiques dans d'autres pays. Mais on se dit, mais nous, on a bien fait les choses. La manière dont Total est attaqué, dont l'ensemble de notre industrie pétrochimique est attaqué, me semble être vraiment une absurdité idéologique absolument radicale.
On soit d'accord, Fos-sur-Mer ne ferme pas, l'activité va être rachetée.
Oui, va être rachetée, absolument. Bon, mais on néglige, son équilibre économique, soi-disant parce que elle est condamnée à mourir, mais non, elle n'est pas condamnée à mourir avant très très longtemps. Marc, donc on devrait y faire attention.
D'accord.
Marc Landré.
Deux données pour bien comprendre le fond du problème. La majorité des raffineries qui sont aujourd'hui en activité en France datent des années 30.
Oui.
Datent des années 30. Donc elles ont un siècle. Beaucoup ont déjà fermé, et donc en vérité, ne reste que celles qu'on a réussi à peu près à replâtrer. Pourquoi aujourd'hui cette filière est en décrépitude et a vocation à mourir ? Parce que personne, aucun industriel ne va investir dans ses capacités productives en France, alors que
on a annoncé que c'était
voilà. Et surtout à un moment où la demande mondiale continue d'augmenter et où on a des créations d'usines ultra modernes.
Absolument.
En Inde, en Chine, qui fabriquent du brut raffiné beaucoup moins cher.
Exactement.
Et qu'il est plus avantageux au prix d'une écologie désastreuse, je vous l'accorde,
de faire venir,
produire d'ici.
Oui, oui.
Donc c'est factuellement, et c'est l'offre et la demande, c'est de l'économie de base. Ma fille qui est en quatrième est tout à fait capable de le comprendre. Il n'y a pas d'avenir à cette filière. On n'investit pas dedans parce que ce n'est pas avantageux d'investir et que de toute façon.
Mais Marc, vous êtes bien d'accord. Néanmoins, que si on arrêtait d'accuser Total à chaque fois qu'il met 1 euro d'investissement dans le pétrole, de continuer à investir dans les hydrocarbures, et qu'on acceptait l'idée
que... Mais ils n'investissent pas en France.
Non,
ils investissent ailleurs.
Bon, mais écoutez, j'aimerais bien les voir investir en France, et j'aimerais bien que l'on ait un certain consensus, c'est-à-dire que tant qu'on en a besoin, autant le faire aux standards de performance qui sont les nôtres.
Je cite ce que disait le président de l'Union française des industries pétrolières, Olivier Gantois, qui disait aujourd'hui, en 2050 en France, il y aura peut-être encore une, voire plusieurs raffineries qui traiteront du pétrole. Mais il y en aura d'autres qui n'en traiteront plus, et il est probable que celles qui traitent encore du pétrole traiteront à ce moment-là un mélange de pétrole et de biomasse. Bah oui, ça, voilà. Donc ça. Il y a des besoins.
Non, mais il y a les besoins, et les besoins, on est très très loin d'avoir épuisé les besoins. Donc autant essayer de monter en gamme et de permettre les investissements. Là, véritablement, il y a à la fois de l'économie, mais aussi du politique.
Marc Landré. Une fois de plus, on est dans un moment de désymétrie entre la France et le reste du monde. En France, les besoins diminuent parce qu'on fait des choix politiques d'électrification du parc automobile ou alors de stigmatisation du chauffage au fioul. Donc ça veut dire qu'on fait le choix en France de tuer une filière,
aujourd'hui.
Alors que dans le reste du monde, cette filière, elle marche bien, elle est poussée, et comme vous le disiez, effectivement, les investissements continuent pour correspondre, pour coller à ce que la production colle à une demande qui est en hausse.
Où est-ce qu'on en sera dans quelques années quand on reparlera avec l'électrification, quand on aura repoussé peut-être l'échéance de 2035 sur la fin des ventes thermiques, voilà, peut-être à ce moment-là on regardera ça d'autres. Allez, un peu plus de 4 minutes, l'extra time pour terminer cette émission comme tous les soirs. Vos avis, vos coups de gueule ou coups de cœur sur 30 secondes. Oh, vous aurez peut-être même un petit peu plus de temps parce qu'on est en avance ce soir. Donc faites-vous plaisir. Bah, Bruno, allez, Bruno Lomar, est-ce que vous voulez commencer 30, allez, on vous laisse 45 secondes si vous voulez, Bruno, pour
discuter sur le thème. Alors, c'est un peu les deux, un coup de cœur et un coup de gueule. Ouais. Il y a eu un article, je crois, dans Le Monde de Daniel Cohn-Bendit et de Sylvie Goulard, qui était l'ancienne candidate pour être commissaire européen. Et ils disent tous les deux quelque chose de très juste. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais quelque chose de très juste. Ils disent il y a une espèce de train européen vers l'élargissement à tout prix à 35 États membres. Et en même temps, on nous fait croire que l'Union européenne peut continuer à s'approfondir. Or, les deux choses s'excluent. Je pense qu'ils ont raison et que on a des élections européennes, c'est le moment de se dire certaines choses et de faire des choix. Voilà.
C'est-à-dire aller plus avant ou alors se dire on reste à 27
et Je pense que l'Union européenne, elle est déjà bien bancale à 27 et que il faudrait l'élargir dans beaucoup, beaucoup plus de temps que ça.
D'accord.
Et ça ne vaut pas que pour l'Ukraine, ça vaut pour les autres pays aussi.
Léonidas, d'un mot, très vite.
Très, très clairement, je pense que l'Union européenne répond à des besoins géopolitiques et que le besoin géopolitique aujourd'hui, c'est d'intégrer l'Ukraine et d'intégrer la totalité des États qui sont menacés par l'expansionnisme russe. Et de ce point de vue-là, non seulement elle serait dans son rôle, mais peut-être qu'il y a d'autres États qui ne seraient pas totalement légitimes à être dans l'Union par rapport à ce risque-là. Mais ce risque-là, c'est la raison d'être de l'Europe. Si on refuse que l'Europe réponde à sa raison d'être, elle a perdu toute espèce d'existence historique et pour longtemps.
Très bien, coup de gueule, coup de cœur à la fois de Bruno Alomar ce soir. Marc Landré, c'est à vous, 30, allez, 40 secondes, ne soyons pas bégueux.
45, allez,
c'est parti.
Un peu d'autopromo, une fois n'est pas coutume. J'invite l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs à aller sur le site de Sia Partners pour découvrir les résultats d'une étude que nous avons conduite avec Marion Cannon sur l'offre de services entreprises de France Travail. On a sondé plus d'un demi-millier d'entreprises pour savoir quelles étaient leurs pratiques en matière de recrutement, pourquoi ils faisaient appel ou non à France Travail et qu'étaient leurs attentes par rapport au demain. Franchement, les résultats sont significatifs, sont très intéressants. Un, les entreprises ne connaissent pas l'offre de service qui leur est proposée par France Travail. Et deux, il y a un véritable changement et un ADN qui est exigé, qui est demandé pour aller vers une offre de service puissante, vers une expérience collaborateur, une expérience entreprise intéressante et un changement d'ADN qui est demandé. On veut que les conseillers entreprises connaissent les métiers, connaissent les entreprises, prospectent en entreprise et ne fassent pas que du traitement des demandeurs d'emploi. Franchement, allez-y. Regardez cette étude qui a été commentée, qui a été valorisée par le directeur général de France Travail lui-même, Thibaut Gulli. Vous ne perdrez pas le voyage.
France Travail, il y a du boulot en quelque sorte. Voilà.
Ah bah, tant mieux, heureusement.
Tout est à construire pour France Travail qui a vu le jour il y a quoi, il y a quelques mois,
1er janvier.
1er janvier, absolument. Le coup de gueule, le coup de cœur, donc c'est un coup de cœur ce soir,
ah bah oui,
Marc Landré.
Gros cœur.
Léonidas Kallogiropoulos, une minute à peine pour vous, Léonidas, on vous écoute.
Merci, écoutez, c'est un peu dans la lignée de Marc Landré, mais c'est un coup de cœur et je fais toujours des coups de cœur pour les entrepreneurs pour la République. En l'occurrence, il n'est pas sur la plateforme Entrepreneurs pour la République, mais je voudrais en faire un pour Hugo Traverse qui a une plateforme qui s'appelle Hugo Décrypte. Et Hugo Décrypte, c'est 14 millions de followers.
Impressionnant.
C'est impressionnant.
Ouais, impressionnant.
Et en l'occurrence, il a décidé de mettre ce média, son média, à la disposition des jeunes, du travail, de l'ouverture à toutes les formes de compréhension des nouveaux métiers, toutes ces passerelles entre les jeunes en recherche de stage, en recherche de leur premier emploi. Et c'est finalement un influenceur qui dit que plutôt que de mettre son aura au service de je ne sais quelle glace, parfum ou autre cosmétique, il va le faire au service de l'intérêt général. Et je le dis vraiment avec d'autant plus de conviction que c'est vraiment une cause nationale. Et j'ai vu le président du MEDEF, Patrick Martin, saluer également cet engagement. Oui. Je pense qu'on est tous derrière, tous ces entrepreneurs qui apportent des réponses aux problématiques d'intérêt général. Vraiment la lignée des entrepreneurs pour la République.
Et ben voilà pour le coup de cœur. Par là, c'était clairement un coup de cœur de Léonidas.
Clairement, pour le Traverse.
Clairement. Merci messieurs, 19h55. Merci. Merci à tous les trois d'être passés. Marc Landré, Bruno Alomar et Léonidas Kallogiropoulos. À très vite avec plaisir pour nouvelles aventures. 19h56 dans un instant Tekkenco avec François Soal. On rappelle 20h45, interview exclusive, elle dure 3 quarts d'heure, du patron de Grok, Jonathan Ross. Grok, vous savez, c'est cette start-up qui veut venir défier Nvidia sur son terrain de jeu. C'est absolument passionnant. Ça sera à suivre à 20h45 et puis nous on se retrouve maintenant bien sûr demain soir à 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.